Bonsoir tout le monde, merci d'être présent ce soir ici avec nous. Je me présente, je suis Mohamed Jaber, je suis professeur en neurosciences et porteur d'un projet d'unité de recherche en neurosciences à Poitiers. Donc nous sommes ici ce soir dans le cadre de la semaine du cerveau. Donc, la semaine du cerveau ici à Poitiers pour l'année 2011 s'organise autour d'une petite exposition de photographies que vous avez dû voir dans le couloir. De cette soirée de table ronde autour des addictions que je vais vous présenter, mais aussi d'une projection de court-métrage, on ne voit pas parce que c'est très petit, qui a lieu le 5 avril à 18h au bar Le Plan B. Donc tous les ans, depuis maintenant une dizaine d'années, on organise la semaine du cerveau à Poitiers avec l'aide de l'espace MEDEF France. On fait varier les plaisirs, donc d'une année à l'autre, le projet de la présentation est différent, les intervenants sont différents, le sujet est différent. Alors, c'est quoi la semaine du cerveau? Voilà, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Donc, je lis comme vous, hein, je vais le commenter. C'est un rendez-vous annuel qui vise à sensibiliser le grand public à l'importance de la recherche sur le cerveau, vous l'avez compris. Alors, cette semaine du cerveau a été créée il y a une dizaine d'années, en 1996, un peu moins de 10 ans, avec le European Data Alliance for the Brain. Et la première réunion a eu lieu donc aux États-Unis. Et depuis, ces semaines du cerveau ont lieu en Europe. Et des scientifiques en neurosciences ont signé en 1996, une déclaration qui a défini les objectifs principaux et les buts à atteindre dans la recherche pour la prochaine décennie. Depuis 1998, c'est devenu un événement international majeur. Et puis en France, elle est organisée sous l'égide de la Société française de neurosciences. La Société française de neurosciences, c'est la société savante qui compte le plus d'adhérents, quelles que soient les sociétés et l'association de savants. Nous sommes plus de 3000 à être dans la Société de neurosciences et parmi toutes les sociétés de neurosciences européennes, la Société de neurosciences française compte le plus grand nombre de neuroscientifiques. Donc c'est une société extrêmement active. Et ceci se fait bien entendu avec l'association Dana Alliance qui a créé cet événement, mais aussi avec la Fédération pour la recherche sur le cerveau. Alors, deux mots sur la Fédération de recherche sur le cerveau. Il s'agit d'une fédération d'associations de malades qui regroupe plusieurs associations, dont la fondation, dont l'association France Parkinson, France Alzheimer, sclérose latérale, etc. Donc toutes ces associations se regroupent dans une fédération qui est la Fédération pour la recherche sur le cerveau, qui, à l'occasion de la semaine du cerveau, fait un programme qui s'appelle le Neurodon. Mais vous inquiétez pas, on ne va pas passer entre vous avec une assiette. Mais le Neurodon, c'est une manifestation qui dure tout le mois de mars et qui vise à sensibiliser le public sur la recherche sur le cerveau, à récolter des fonds pour financer la recherche sur le cerveau. Et la Fédération redistribue ces fonds aux associations qui, à leur tour, redistribuent ça au laboratoire de recherche. Donc, cette campagne mobilise plus de 2000 partenaires dans des écoles, universités, établissements médicaux, groupes de soutien de patients, des agences gouvernementales, des groupes de services, et dans plus de 62 pays, qui vont tous communiquer autour de la recherche sur le cerveau. Alors, cette soirée va durer un peu plus d'une heure, ça dépend aussi de vous. C'est une table ronde autour de l'addiction, à savoir que nous avons essayé de réunir aujourd'hui, ce soir, plusieurs spécialistes sur la dépendance, sur les dépendances. Excusez-moi, parce que sur mon écran, il y a une faute de frappe, mais bon, c'est juste un effet d'optique. Sur les dépendances, donc vous avez avec vous ce soir Jérôme Lacoste, qui est docteur en psychiatrie et addictologue, Philippe Binder, qui est généraliste et qui consulte en addiction à Rochefort, qui coordonne le réseau addiction au niveau régional, il est maître de conférence au CHU et expert à l'APSAPS. Je suis sûr que dernièrement vous en avez entendu parler de l'APSAPS, pas de Philippe Binder précisément, mais de l'APSAPS. Nathalie Van Hill, et ce soir n'est pas consacrée à l'APSAPS. Nathalie Van Hill, qui est étudiante en thèse avec nous, qui m'a beaucoup aidé cette année à organiser la semaine du cerveau, et David Belin, qui est chercheur INSERM, directeur de l'équipe psychobiologie des désordres compulsifs, et Marcelo Solinas, qui est chercheur CNRS, et directeur de l'équipe neurobiologie et neuropharmacologie de l'addiction. Alors, ce que je vous propose, c'est de couper la table ronde en deux, parce qu'on n'est pas assez nombreux pour occuper la table, Enfin, c'est l'inverse, on est trop nombreux pour occuper la table. La table n'est pas assez longue pour les intervenants. On va y arriver. La journée était longue. Donc on va commencer par les collègues médecins, Jérôme Lacoste et Philippe Bindard, qui vont vous donner leur point de vue autour de l'addiction. On va passer après avec les fondamentalistes, si je puis dire. Donc Nathalie Van Hill, qui va vous présenter l'intérêt des modèles animaux dans l'étude de l'addiction. Et David Belin et Marcel Solinas, qui vont vous parler plus précisément de leur sujet de recherche. Après, donc, on va couper donc cette table ronde en deux, comme je l'ai dit. Vous pouvez intervenir, je vous redonnerai la parole, après l'intervention de nos collègues médecins, d'une part, et d'autre part, après l'intervention de Nathalie Van Hill, David Belin et Marcel Solinas. Et si la salle le veut bien, on va discuter entre nous avec les cinq intervenants autour des thématiques de l'addiction. Voilà, donc je vous souhaite bonne soirée. Et je demande tout de suite aux deux premiers intervenants, donc Jérôme Lacoste et Philippe Binder, de venir ici, de commencer. Est-ce que tu as des diapos ?
Je n'ai pas de diapos. Je ne sais pas si vous avez des diapos. Non, non plus. Parfait. Je crois que c'est moi qui commence. Il n'est pas allumé. Si, ça marche. Ça marche. Bonjour à tous. Merci d'être là à 9h moins le quart. Donc, je vais vous livrer quelques réflexions que j'ai en rapport avec l'addictologie, avec l'addiction, en commençant par un petit peu d'historique sur les conduites addictives, parce que ce concept est quand même très récent et oula, ça c'est pas agréable. Et remonte à la fin des années 90 avec peut-être quelque chose que vous connaissez déjà, qui est le rapport Parquet, Parquet-Reynaud. Qui a défini dans les suites du rapport ROC de 1998, qui a défini les conduites addictives. Avant les conduites addictives, on parlait d'alcool, on parlait de drogue, mais surtout on parlait de toxicomane et on parlait d'alcoolique. Et on faisait en niveau médical une grande distinction entre des alcooliques, des toxicomanes. Et en médecine, on ne s'intéressait pas à tout ce qui pouvait se passer à côté de ces patients-là. Et aussi dans l'organisation des soins, d'un côté on soignait des patients qui avaient des problèmes d'alcool, de l'autre côté on soignait des patients qui avaient des problèmes de toxicomanie, et on marginalisait un petit peu ces deux populations-là. 98, le professeur Rock, dans son rapport, peut-être pas le premier, mais en tout cas en France, est le premier à dire que toutes les drogues ne sont pas aussi dangereuses les unes que les autres, et surtout que l'alcool et le tabac sont aussi, voire plus dangereux que d'autres drogues, que d'autres substances. Donc je pense que vous vous souvenez un petit peu de ce rapport et des conséquences qu'il a pu avoir, puisqu'il plaçait effectivement la dangerosité de l'alcool au niveau de celle de l'héroïne, et au-dessus de celle de la cocaïne, et il mettait également le tabac comme une drogue très dangereuse. Alors, ce qu'il faut aussi savoir, et je vais essayer de ne pas trop me disperser dans mon propos, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que jusqu'aux années 80, par exemple, la cocaïne était considérée comme une drogue sans danger. Aux États-Unis, jusqu'en 80, les grandes publications nord-américaines disent « prendre la cocaïne de temps en temps, il n'y a aucun problème, on ne risque rien ». Ça a évolué très rapidement avec l'apparition dans les années 83-84 du crack, donc cocaïne fumable, qui a permis de se rendre compte que la cocaïne était aussi dangereuse, voire plus dangereuse que l'héroïne, avec comme vision qu'il y avait à cette époque-là le fait qu'une drogue n'ait posé problème que s'il y avait une dépendance. Et la dépendance était la dépendance physique, donc le sevrage, les difficultés à l'arrêt. Donc il y avait deux grandes notions, c'était dépendance physique, sevrage et tolérance. Pour ceux qui ne savent pas, la tolérance, c'est la nécessité d'augmenter les doses pour avoir les mêmes effets. Donc tout ça, c'était avant 98, avant 2000. En 98, le professeur Rock annonce que les drogues doivent être toutes regardées de la même façon et regardées en fonction d'une dangerosité médicale, sociale, individuelle et sociétale. 99, deuxième grande révolution en France, l'idée de se dire que les conduites addictives, ce n'est pas que la dépendance, Alors, il y a une petite notion qui est un petit peu subtile actuellement, qui est de considérer que addiction égale dépendance. Actuellement, le terme d'addiction et le terme de dépendance sont assez synonymes, mais l'addiction ne regroupe pas toutes les conduites addictives. Donc il y a trois grands types de conduites addictives, qui sont l'usage, l'abus et la dépendance. Ici, tout ce qui est recherche neurobiologique se concentre uniquement sur la dépendance. Dépendance qui est une dépendance à la fois physique, mais surtout une dépendance psychologique. En effet, pourquoi on considérait que la cocaïne n'était pas dangereuse, c'est qu'il n'y avait pas de sevrage à la cocaïne. Il n'y avait pas, quand on arrêtait la cocaïne, il n'y avait aucun problème sur le plan physique. Et donc, on disait, c'est pas dangereux, il n'y a aucun problème. On s'est très rapidement rendu compte, grâce à tout ce qui était études neurobiologiques, que le problème des drogues n'était pas forcément la dépendance physique, mais était la dépendance psychologique, le besoin compulsif d'aller chercher un produit. Donc la dépendance, l'addiction, c'est caractérisé par la perte de contrôle de la consommation, le besoin d'aller rechercher le produit en permanence et, accessoirement le sevrage. La dépendance physique est accessoire. Et la cocaïne est actuellement, surtout avec le crack, le modèle le plus pur de dépendance psychologique. Il y a ce qu'on appelle un craving, c'est-à-dire un besoin compulsif, une recherche compulsive de drogue qui est très forte avec la cocaïne. Tout ça pour arriver à une question qui est assez intéressante en neurobiologie et que je vais juste évoquer, parce que je pense que les collègues peut-être pourront rebondir dessus et peut-être la salle aussi, qui est la notion que on devient addict quand on a un déséquilibre entre deux zones très importantes du cerveau, qui sont un système de récompense, qui est un système assez archaïque, assez primaire, qui existe chez tous les êtres vivants, et une autre zone qui est le système préfrontal, qui est le lobe frontal, qui est situé en avant du cerveau, derrière le front, et qui a pour mission, normalement, chez l'être humain, de contrôler tout ce qui se passe au niveau sous-cortical, au niveau du système de récompense. Un exemple assez simple pour comprendre qu'est-ce qui peut se passer, c'est de se promener dans une rue et de passer par hasard devant une boulangerie ou devant une pâtisserie et de remarquer par hasard, dans la vitrine de la pâtisserie, un éclair au chocolat. Généralement, les gens qui aiment l'éclair au chocolat, quand ils vont passer devant cette vitrine, ils vont tout de suite voir l'éclair au chocolat. Ils vont le voir, ils vont en avoir envie. Ça, c'est le système de récompense qui s'active. Et si la personne est normalement constituée, si la personne a un système préfrontal suffisamment fort, il va être capable de se raisonner, surtout s'il a déjà mangé, surtout si la boulangerie est fermée, surtout s'il il n'a pas d'argent. Il va se dire, bon, j'ai envie de... Mais bon, je vais me contrôler, je vais me modérer, je vais pas me précipiter dans la boulangerie, casser la vitrine, prendre l'éclair au chocolat et partir. Ce qui se passe avec les addictions, c'est que les patients dépendants, les patients addicts, ont ce système de l'envie qui est très développé, qui est très 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 actif, et ils ont un système de contrôle frontal qui est inhibé. Par plein de raisons qu'on ne va pas développer ici, que peut-être les collègues développeront, ce qui font que leur envie prenne le dessus sur leur capacité de contrôle. Et ils se retrouvent dans une situation où, quand ils ont envie de consommer, quand ils ont envie de prendre une substance, quand ils ont envie, on va juste faire la partie là-dessus, puisqu'après je veux juste l'évoquer après, quand ils ont, par exemple, pour un boulimique, envie de manger, mais cette envie devient plus forte que la volonté. Tout ça pour en arriver à une notion qui est assez importante en clinique, qui est que les patients n'ont pas un manque de volonté, mais un défaut de capacité de prendre une décision. Ce n'est pas la volonté, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas qu'ils ne sont pas capables de se contrôler, c'est qu'ils ne peuvent pas se contrôler. Mais cette problématique-là est très importante en clinique par le fait que, en parallèle à cette envie très forte de consommer, ils se retrouvent dans des situations où beaucoup de choses leur donnent envie de consommer. Par exemple, on sait actuellement que le craving, l'envie de prendre une substance est très fortement lié aux émotions. Donc les émotions négatives, l'angoisse, la peur, la colère, la tristesse, mais aussi des émotions positives peuvent donner envie de consommer. Parce qu'ils ont déjà consommé au moment où ils étaient tristes et que la substance avait traité un petit peu leur angoisse, ou parce qu'ils étaient dans un moment d'euphorie et que la substance avait renforcé ce moment d'euphorie. Mais il y a également à la fois des situations liées aux produits qui peuvent donner à avoir envie de consommer. Par exemple, si vous êtes fumeur, voir quelqu'un qui fume une cigarette, ça va vous donner tout de suite envie de fumer. Et il y a de façon beaucoup plus insidieuse des situations disons, le contexte dans lequel on a consommé suffit pour déclencher une envie de consommer. Si vous prenez je peux vous parler assez facilement de la cocaïne parce que c'est mon sujet de recherche en clinique. Si vous fumez du crack tous les soirs à 18h dans un endroit précis avec une ambiance particulière, dès que vous allez vous retrouver dans cet endroit, dès que vous allez vous retrouver dans cette situation-là, vous allez avoir envie de consommer. Si vous y êtes à 4h de l'après-midi, vous n'aurez pas envie parce que vous n'avez pas... Mais dès que vous y êtes à 18h, l'envie arrive immédiatement. Et ce qui est très important, c'est d'arriver en clinique, d'être capable de repérer ces situations-là, parce que c'est le mécanisme central de l'addiction. Quels sont les déclencheurs de l'envie de consommer? Et vu que l'heure passe quand même très vite, la troisième idée que je voulais développer dans cette situation-là, c'est qu'effectivement, l'addictologie, c'est plus non plus que les substances, mais ça a été aussi, depuis la fin des années 90, ça a été les addictions sans substance, où on s'est rendu compte qu'en fait, le jeu il se passait des processus psychologiques dans le jeu pathologique qui pouvaient être assez identiques à ce qu'on pouvait observer dans la prise de substances. Les boulimies ont été rentrées aussi dans les addictions parce que les gens qui avaient des comportements boulimiques avaient des comportements très similaires à ceux qui jouaient. On a aussi développé des addictions sexuelles. On parle actuellement d'addiction au travail. Donc, on est en train, dans le champ de l'addictologie, de développer tout un champ d'addictions comportementales qui peuvent être effectivement plus ou moins critiquables, mais qui ont comme modèle toujours le même, qui sont des situations déclenchantes d'une envie, une perte de contrôle. La perte de contrôle entraîne l'acte, et l'acte est très souvent associé dans un premier temps à un soulagement, mais très rapidement à de la culpabilité, de la honte, du regret, et souvent ce qui permet aux patients de venir après en soin. Et dernier point très bref, thérapeutique, pour vous dire qu'en fait, la prise en charge sur le plan médical des addictions, elle est très complexe, puisqu'elle doit associer, si possible, médicaments et psychothérapie. Et qu'actuellement, au niveau médicamenteux, il y a trois grandes pistes qui existent. Ce sont les approches substitutives, avec la méthadone pour les opiacés. Elle est d'aider à lutter contre le craving, pour l'envie de consommer, et elle est à essayer de maintenir l'abstinence, c'est-à-dire à permettre au long cours aux patients de ne pas rechuter. Malheureusement, ce qui se passe, c'est qu'on sait très bien que les traitements médicamenteux seuls sont très inefficaces, que les psychothérapies seules, dans certains cas, ne sont pas suffisantes, parce que si vous êtes face à un patient qui a une envie de consommer très forte, vous n'arriverez pas à le faire une psychothérapie dessus, parce que l'envie sera tellement forte que même s'il a fait des efforts, par exemple, pour ne pas les consommer, ben, l'envie de consommer le poussera à échouer. Et qu'on développe, et je pense que ça va être un petit peu le sujet de mon confrère, toute une série de réseaux de soins et de réseaux de prise en charge, puisqu'il est dans le champ de l'addictologie. Donc, je pense que je vais m'arrêter là. Pour ces quelques idées qui peut-être vont entraîner des questions, mais merci.
D'accord.
Il
Donc, je suis médecin clinicien. Alors, docteur, j'ai encore rechuté. Enfin, comment pourriez-vous m'expliquer que je fais quelque chose que je n'ai pas envie de faire ? Enfin, docteur, Arthur, mon fils de 15 ans, s'est mis dans le cannabis, alors que son frère jumeau ne s'y est pas mis. Enfin, avec mon épouse, on ne comprend pas, mais on l'a toujours trouvé un peu fragile. Y aurait-il des vulnérabilités ? Face à ces questions répétées depuis 30 ans que je vois des patients, je me suis forgé une petite réponse que je vous propose ce soir. Donc, c'est comme si vous étiez le patient. Alors, voyez-vous, monsieur, madame, connaissez-vous la légende de Saint-Georges ? Au XIIIe siècle, donc, il y avait, dans un pays lointain, un dragon qui terrorisait la communauté. Saint-Georges arrive sur son destrier et pour apaiser les problèmes de la région, le cheval se met sur le dragon et Saint-Georges maîtrise et pendant 3 jours, il se promène avec son destrier sur le dragon, le montrant qui s'est calmé, le dragon. Et cette image va nous aider à comprendre tout un processus qui se passe au niveau cérébral. Ça fera peut-être hurler nos neurobiologistes, mais c'est une image qui, je trouve, est assez intéressante et qui est utilisée après par les patients pour expliquer pourquoi ils ne maîtrisent plus. À la naissance, le petit est un vrai dragon rose. C'est un cerveau reptilien à jour et qui traite les informations qui ne sont que des sensations par une réponse programmée génétiquement, par l'instinct, la réponse étant une réponse automatique. Boire, manger, dormir, se reproduire, fuir, crier, japper, etc. Voilà. Donc, au milieu, là, hypothalamus, et voilà. Très rapidement, le cerveau de l'enfant est équipé d'un petit destrier cheval qui va commencer à chevaucher donc le dragon et commencer avec ses 4 sabots de maîtriser un petit peu. Alors comment se passe le système ? Eh bien, les informations qui viennent commencent à prendre du sens grâce à des éléments de mémorisation que sont l'amygdale avec la mémoire émotionnelle et l'hippocampe avec, pour faire court, la mémoire de travail. Les informations donc viennent par le dragon, prennent un certain sens, elles sont traitées de manière analogique, sans compréhension, analogique, non plus automatique, mais analogique. Et elles déterminent une réponse plutôt associative avec un fonctionnement qui est plutôt de type mammifère. Le dragon détermine en gros ce qu'on appellera rapidement le tempérament. Et le cheval, le mammifère, qui traite avec des associations sensorielles, entérine tout doucement ce que l'on appellera le caractère. Et donc l'enfant grandit comme cela avec un mode de dressage qui lui est imposé. C'est-à-dire que la partie cérébrale mammifère du cerveau n'a pas choisi. C'est ainsi que la langue maternelle n'est pas une langue choisie. C'est une langue qui est venu par analogie de son et de sens. Et tout doucement, après 5, 6, 7 ans, tout doucement, il y a un petit cavalier qui se met à cheval sur le cheval qui domine le dragon et qui, lui, tout doucement, va prendre de plus en plus d'importance et qui va contrôler. Et donc, vous avez tout doucement, et ça se progresse de plus en plus à la puberté, une maîtrise avec une information qui n'est plus sensoriel, qui n'est plus, si vous voulez, affective au niveau limbique, mais qui devient logique au niveau cérébral préfrontal, comme il a dit. Et ce traitement de l'information, qui est une information logique, est traité par choix et non plus par analogie. Voilà. Et la réponse est donc une réponse réflexive. Donc, le cerveau préfrontal, on va dire, fait un tri par rapport à un cerveau mammifère qui fait des analogies, par rapport à un cerveau reptiliens qui fonctionnent de manière automatique. Les apprentissages grandissent quand l'enfant grandit. Les apprentissages se font par récompense, comme il vient d'être dit. Et chaque fois que le cavalier est dans un désir, si vous voulez, et construit un mode de maîtrise, de contrôle de son mammifère et de son reptile, il engrange par une récompense, si vous voulez, qui vient plutôt du dragon, hein, une mise en mémoire de cette capacité et qui va l'apaiser. Donc toute solution trouvée progressivement, d'abord par l'éducation, puis après par les choix personnels, deviennent progressivement des modes d'apaisement qui sont stockés de plus en plus dans les mémoires hippocampiques et amygdaliennes. Donc voilà l'évolution tout doucement, et on voit, si vous voulez, un être équilibré, ça serait Saint-Georges sur son cheval, et qui caresse son cheval et qui caresse son dragon, et il y a une fluidité qui prend du sens dans l'environnement qui devient de plus en plus complexe. Sauf que un certain nombre de personnes grandissent avec un cheval qui a donné des coups de sabot dans le dragon et avec un cavalier qui a donné des coups d'éperon sur le cheval. Ou alors des solutions qui n'ont pas des situations qui n'ont pas trouvé de solution, et donc on a une dissociation, si vous voulez, entre le désir et la réalité. Et la dissociation entre le désir et la réalité, c'est le stress. Lorsque vous avez envie de quelque chose et que vous en êtes empêché, vous êtes dans une dissociation. On pourrait caricaturer en disant que vous avez le dragon qui part là, votre comportement dressé qui part là-bas, et alors que vous voulez aller là-bas. Donc, il y a deux solutions. Il y a l'effort d'adaptation, qui est un essai de corriger la trajectoire, si vous voulez, du mammifère. Et il y a une autre solution, c'est de prendre un produit ou un comportement qui va prendre le cannabis, l'alcool, des drogues, et ces produits vont avoir un effet de dissociation de cette coordination, si vous voulez. C'est comme si le cavalier n'avait plus d'éperon ni de rennes. Et donc on pourrait projeter deux images du contrôle, qui serait l'image Coca-Cola d'un cavalier sur le bord de la plage avec donc une jeune fille libre, sans rennes ni éperon, et qui dit « je suis libre ». C'est un peu l'usager de drogue, si vous voulez. Il est libre de rien puisqu'il suit, en fait, son mammifère. Et l'autre, qui est un cadre noir de Saumur, qui maîtrise son cavalier et qui fait à tout moment ce qu'il veut. Voilà. Et les circonstances dont il a parlé d'exposition aux rechutes pour quelqu'un qui est arrivé à maîtriser sont deux situations bien précises. C'est un, l'exposition à des arrivées sensorielles très identiques à celles qui ont provoqué la prise de drogue. Donc ça, c'est la mémoire mammifère. Et tout d'un coup, le cheval part d'un côté et entraîne le cavalier alors que moi, je veux aller là. Eh bien non, tout l'aspect sensoriel m'a tellement emmené que je ne peux plus contrôler. Ou alors, des situations de stress, c'est-à-dire mon destrier, mon cavalier et mon dragon sont devant une situation que je n'arrive pas à résoudre, et la tension extrême entre les trois, cerveaux, est tellement douloureuse que, avec le produit, ça me permet de dissocier, de lâcher prise et d'être entraîné, malheureusement, là où je ne veux pas aller. Voilà les deux situations de rechute. Et les patients, d'ailleurs, me redisent souvent « Bon, docteur, aujourd'hui, je reviens parce que le dragon est de sortie. Hein ?» Voilà, je n'ai pas pu m'empêcher de... Voilà. Si vous voulez, ce qui est intéressant dans cette métaphore, c'est qu'il y a des aspects de fragilité génétique dont on parlera. Il y a des dragons plus ou moins forts, si vous voulez. Et il y a des fragilités d'ordre de dressage, c'est-à-dire d'ambiance dans laquelle on a grandi. Et ces ambiances qui sont plutôt de style mammifère, qu'on n'a pas choisi, si vous voulez, nous donnent des vulnérabilités après à résoudre des situations complexes, plus ou moins difficiles à résoudre. J'utilise souvent cette métaphore auprès des jeunes à propos du cannabis. pour montrer où est le problème. Si vous voulez, le cannabis, quel est son danger? Le danger du cannabis, c'est qu'il évite au cavalier de faire l'effort d'adaptation dans un environnement de plus en plus complexe à l'adolescence. Et donc le cannabis permet de lâcher les rênes, et on est entraîné par son mammifère, et on est bien, sauf qu'on ne va pas là où l'on veut. Voilà ma petite histoire métaphorique sur le fonctionnement cérébral et le rôle des roses.
Donc, si vous voulez bien, si vous avez des questions à poser tout de suite à nos deux collègues médecins, on peut faire une pause. Sinon, on peut enchaîner avec les trois autres histoires. Est-ce que vous avez des questions? Des remarques, des observations? Est-ce que vous souhaitez qu'on passe tout de suite à la suite? Okay, peut-être que ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à la suite et avoir peut-être une discussion plus globale avec l'assistance. Merci.
Très simple.
Donc, je demande à Nathalie Van Hill, Marcel Solinas et David Belin, s'il vous plaît.
Ça va venir.
Donc, bonsoir à tous. Donc, je suis Nathalie Van Hill. Je suis en première année de thèse dans l'équipe INSERM Avenir de psychobiologie des désordres compulsifs, donc sous la direction du docteur David Belin, à l'Institut de physiologie et biologie cellulaire de l'Université de Poitiers. Et donc, je vais vous parler succinctement des modèles animaux de l'addiction. Alors, créer un modèle animal, c'est en fait reproduire chez l'animal un syndrome Donc, en fait, le but d'un modèle animal, c'est de créer chez l'animal un syndrome qui ressemble le plus possible à une pathologie humaine, dans son ensemble ou partiellement. Donc, cette ressemblance porte essentiellement sur l'étiologie, les bases physiologiques ou encore les symptômes de la pathologie humaine qui nous intéresse. Les modèles animaux sont développés car il existe énormément de limitations à l'expérimentation chez l'homme. Il existe plusieurs types de limitations, et tout d'abord, le plus important, les limitations d'ordre éthique. Il faut savoir qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec des patients, ni même avec des participants sains, bien évidemment. Et dans le cadre de l'addiction, il s'avère que malgré tout l'intérêt que ça pourrait apporter, on ne peut pas. Enfin, il est éthiquement très délicat de donner aux participants des drogues, et en fait, c'est même interdit en France. Il existe également des limitations d'ordre méthodologique à cause desquelles les études cliniques ne sont en fait que des études de corrélation. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'on découvre un substrat psychologique ou biologique à une pathologie, on ne peut jamais déterminer s'il s'agit d'une cause ou d'une conséquence de la pathologie. Et enfin, il existe certaines limitations techniques. Notamment, lorsque l'on parle des études cliniques, on s'intéresse souvent au rapport subjectif au rapport subjectif des patients et des participants. Mais il faut savoir que dans la plupart des pathologies psychiatriques, comme c'est le cas pour l'addiction, la subjectivité des patients est défaillante. Et donc, les résultats que l'on obtient avec ce qu'on appelle les auto-questionnaires sont des données assez ambiguës et difficiles à analyser. À cause de toutes ces limitations de l'expérimentation chez l'homme, on a dû développer des modèles animaux. Donc, ces modèles animaux nous servent à mieux comprendre la pathologie, mais également à développer, à trouver et tester de nouvelles voies thérapeutiques. Dans le cas de l'addiction, il existe de nombreux types de modèles différents. Et un premier type concerne les modèles d'exposition à la drogue, qu'elle soit aiguë ou chronique, et les modèles de prise volontaire de drogue. Donc ces modèles sont extrêmement importants car ils permettent d'enrichir nos connaissances sur les effets pharmacologiques directs des drogues sur le cerveau. Ils nous ont permis de découvrir les cibles neuronales des drogues et également les adaptations qu'elles pouvaient induire suite à une consommation donc aiguë, chronique, plus ou moins longue, prolongée. Mais le problème de ces modèles, c'est qu'ils ne prennent pas en compte la définition clinique de ce qu'est l'addiction, avec une composante compulsive très importante, à savoir que la compulsion, c'est en fait la prise de drogue en dépit de conséquences négatives. Mais depuis les années 2000, se développent des modèles de prise compulsive chez l'animal. De prise compulsive qui englobe cette composante compulsive qui est essentielle à la définition de l'addiction. Merci.
Donc je vais commencer par remercier Nathalie, qui a mis beaucoup, beaucoup d'énergie dans l'organisation de la Semaine du cerveau cette année. Et malgré son implication dans cette organisation, elle a maintenu une activité de recherche intense dans mon équipe, et c'est tout à fait louable. Je suis David Belin, je suis chercheur INSERM, et je dirige une équipe qui s'intéresse à la psychobiologie des désordres compulsifs dans l'acceptation la plus large du terme. Je vais me focaliser aujourd'hui sur les facteurs de vulnérabilité, on en a parlé tout à l'heure, à l'addiction. Et je vais mentionner en conséquence des études chez l'animal. Donc je voudrais avant tout dire que l'expérimentation dans notre équipe à Poitiers se fait selon des règles d'éthique extrêmement strictes, dans le respect de l'animal, où on minimise la souffrance et où on suit bien plus qu'il n'est nécessaire la législation européenne, voire la législation anglaise qui est la plus rigide au monde. Donc je vais vous parler aujourd'hui du fait que nous ne sommes pas tous égaux face aux drogues. Ça a été déjà mentionné par nos collègues cliniciens. Le pourquoi, en fait, c'est une question qui est dans le titre et c'est une question qui restera dans les conclusions, on ne sait toujours pas. Mais je vais essayer de vous livrer certaines discussions qu'on peut avoir entre neurobiologistes et psychiatres par rapport au potentiel substrat, qu'il soit psychologique ou biologique, de cette vulnérabilité. Donc effectivement, si on prend une population d'individus, sur une centaine de personnes qui vont une fois dans leur vie être exposées à une drogue, donc il y en a peut-être peu d'entre vous dans cette pièce qui ont ne serait-ce qu'une seule fois pris de l'alcool ou fumé une cigarette, sur une population qui va être exposée à une drogue une fois dans sa vie, une sous-partie va aimer les effets de la drogue dans la première exposition et va rentrer dans ce qu'on appelle une prise récréative. Et puis, encore une sous-partie de cette population va entrer dans un cadre pathologique de prise abusive. Ce qui est important, c'est qu'en fait, au fur et à mesure, de moins en moins d'individus présentent de plus en plus de syndromes et de comportements pathologiques dans le développement de la maladie, de sorte que sur 100 individus qui vont être exposés aux drogues, en moyenne, 15 à 20% vont développer une addiction. Donc vous allez me dire, ce qui fait qu'au final, j'ai une chance sur 10, donc c'est pas si mal que ça. Mais c'est quand même un risque très très important, parce que le problème avec cette addiction, c'est qu'au-delà du fait que la prise soit compulsive, c'est-à-dire que les patients ont consommé de la drogue, même s'ils savent que c'est dangereux pour la santé, même s'ils ont perdu leur métier, même s'ils ont perdu leurs interactions sociales, leurs enfants, leurs femmes. Ils perdent tout, mais ils continuent. Et ce qui est très important, c'est que même si, à un moment ou un autre dans leur vie, ils arrivent à s'affranchir de cette compulsion, à s'arrêter, donc même si pendant un certain temps, ils arrivent à être en sevrage, malheureusement, après un an, après 6 mois, après 15 ans, après 30 ans, ils ont un risque de plus de 85% de rechuter. Et donc, tout à l'heure, on a eu un collègue clinicien qui nous disait, des patients arrivent en disant, je fais quelque chose que je n'ai pas forcément envie de faire ou que je ne veux pas forcément faire. Et on a là toute une dimension qui est que, dans les envies dont on parlait tout à l'heure, il est très peu admis, et ce n'est pas forcément commun, qu'en fait, nombre de nos envies ne sont pas forcément conscientes. Et dans le cadre de l'addiction, ce qui se passe, c'est qu'il y a un déroulement complet de l'ensemble des processus non conscients, motivationnels ou cognitifs, qui amènent à une rechute. Donc même si je veux rester abstinent, je vais me retrouver dans des situations où, malgré ma volonté la plus forte, je vais rechuter, en étant conscient ou pas de ce qui se passe au niveau de mes envies avant la rechute. Donc la grosse conséquence de l'addiction, c'est que c'est une maladie un petit peu comme un diabète. Une fois que je suis addict, je mourrai addict. Même si je peux rester sans drogue pendant 15 ans, j'ai toujours un risque dans ma vie de rechuter et mon cerveau a été changé d'une telle sorte qu'il ne rechangera jamais. Donc la question qui nous intéresse, la question qui nous brûle dans notre équipe, c'est qu'est-ce qui fait que ces patients qui deviennent addicts, et comment étaient ces patients avant toute exposition à la drogue ou lors de la première exposition à la drogue? Ils étaient déjà vulnérables avant de prendre de la drogue. Et donc, c'est important de comprendre ce qui fait que ces patients-là, après avoir été exposés à la drogue, vont développer une pathologie. Donc, en fait, il y a une triade un petit peu magique en addictologie, où il y a 3 grands facteurs qui contribuent à la vulnérabilité à la prise de drogue. Le premier, c'est l'environnement. Donc, on en a parlé tout à l'heure. L'environnement, il commence, en fait, avant la naissance. L'environnement, il est prénatal. S'il y a un autre embryon dans l'utérus de ma mère, si, en fonction des hormones, si c'est un garçon ou une fille, si ma mère est stressée, si les situations familiales sont difficiles, cet environnement-là, déjà, peut avoir un impact sur mon cerveau. Et bien évidemment, cet environnement continue à avoir un impact sur mon cerveau toute la vie. J'arrive au monde avec des gènes. Et ces gènes, non seulement ils sont structurés dans mon ADN, mais en plus, de par l'héritage de ma maman, ou de la vôtre, ils ont d'ores et déjà une empreinte, à savoir qu'avec les mêmes gènes, en fonction de l'expérience de vie, l'environnement va faire que nos gènes peuvent s'allumer ou s'éteindre au niveau du cerveau. Donc, ce mécanisme-là est hérité de la mère, et en fonction du patrimoine de notre maman, on va se retrouver d'ores et déjà avec une vulnérabilité héritée. Et enfin, que je sois vulnérable ou pas, au final, si jamais je rencontre de drogue, je ne serai jamais addict. Donc, il est bien évident que dans le développement d'une addiction, il est nécessaire qu'il y ait une interaction entre un environnement particulier, une histoire de vie particulière, des gènes, et en fait, on définit dans mon équipe que l'interaction qu'il y a entre les gènes et cet environnement crée la personnalité. Et il faut donc une personnalité vulnérable qui rentre en interaction avec la drogue pour développer une addiction. Et dans ces cas-là, en fait, on peut mettre en évidence 2 types de vulnérabilité. Il y a la vulnérabilité à la prise. Certains d'entre nous vont essayer de la cocaïne une fois, vont essayer du cannabis une fois, puis vont avoir ce qu'on appelle un bad trip. Ils ne vont pas du tout aimer, ils ne recommenceront pas. Et d'autres, ça leur plaît un peu plus que les autres, et donc ils vont continuer de façon régulière. Cette vulnérabilité à la prise est donc le premier moteur qui va nous amener à entrer en contact de façon récurrente avec la drogue. Et puis il y a la vulnérabilité à l'addiction. Ce n'est pas parce que je prends un petit verre de whisky 3 fois par semaine ou tous les soirs, tant que je me prends mon petit verre de whisky, je ne suis absolument pas addict, mon comportement n'est pas pathologique. Donc la prise de drogue n'est absolument pas une histoire d'addiction. Et l'addiction n'est absolument pas une histoire que de prise de drogue. Il y a toute cette dimension de perte de contrôle sur la prise et du développement d'une prise compulsive de drogue. Et donc, il y a aussi une vulnérabilité à l'addiction. Et en fait, les modèles animaux nous permettent de déterminer des traits de personnalité qui sont plus favorables à une vulnérabilité à la prise et d'autres qui sont plus favorables à une vulnérabilité à la compulsivité. Et je vais essayer de vous démontrer, d'une part, que les traits de personnalité, ça existe même chez des rats, au final, c'est pas propre à l'homme, et que chez ces animaux, on arrive à distinguer des comportements qui vont être des facteurs de vulnérabilité à de la prise de drogue, ou d'autres qui vont être des facteurs de vulnérabilité à la transition vers l'addiction. et que généralement, les traits qui prédisent l'un ne prédisent pas forcément l'autre. Donc il y a une dissociation entre le fait que je sois amené à prendre de la drogue, et parce que ça me plaît, et le fait que je sois amené à être vulnérable, à développer une pathologie. Et donc parmi ces traits, chez l'animal, notamment à Poitiers, on peut mesurer l'impulsivité, l'anxiété, la recherche de sensations, la recherche de nouveautés ou la prise de décision. Alors, je vais, en fait, éviter de vous montrer des schémas et éviter de vous présenter des résultats scientifiques, plutôt vous montrer comment on mesure ces traits chez l'animal et à peu près comment ils prédisent, qu'est-ce qu'ils prédisent dans le développement de l'addiction. Donc, vous avez là la représentation, ce qu'on appelle ça des open fields, ce sont des champs ouverts, ce sont des carrés de 50 cm de large dans lesquels on place un animal et on filme l'animal et on filme son activité motrice lorsque cette activité motrice est générée par un nouvel environnement. L'animal, il est dans un nouvel environnement et il va l'explorer. Et en fait, sa quantité d'exploration, donc les petits traits rouges là, c'est toutes les trajectoires que l'animal a prises. Sa quantité d'exploration est véritablement différente d'un animal à l'autre. Donc vous avez ici un animal avec beaucoup, beaucoup de traits rouges et ici un animal avec moins de traits rouges. Celui-là a beaucoup plus couru que celui-là. Et donc, lorsqu'on s'intéresse à des moyennes sur des groupes, on a des animaux avec une très forte activité motrice et des animaux avec une activité motrice plus faible. Donc là, vous avez représenté l'activité motrice en distance au cours du temps, toutes les 10 minutes. Et ce qui a été démontré, et ce que nous avons aussi contribué à démontrer, c'est qu'en fait, ce trait chez l'animal qu'on a assimilé, donc ça a été assimilé en 1989 par Piazza, qui est un chercheur à Bordeaux, qui est un des leaders français de l'addiction, ce trait prédit en fait une vulnérabilité à la prise de drogue. À savoir que ces animaux-là, qui au final, lorsqu'ils sont stressés, courent plus que les autres, si on leur donne des faibles quantités de cocaïne ou d'héroïne, ils vont les prendre. Et ces quantités de cocaïne et d'héroïne sont tellement faibles que les animaux qui ne courent pas beaucoup, en fait, ne vont même pas les sentir. Donc parce qu'ils ne sentent pas la drogue, ils ne vont pas commencer à prendre la drogue. Donc cette différence interindividuelle, qu'on a appelée chez l'animal recherche de sensations, prédit une vulnérabilité à la prise de drogue. Par contre, lorsqu'on teste ces animaux pour le développement d'une prise compulsive, dans un modèle qui a été développé à partir de 2004, et qui est au final le premier modèle de prise compulsive de drogue chez l'animal, on a pu démontrer que ce trait, par contre, ne prédit en aucun cas la transition vers la compulsivité. Donc on a des animaux qui aiment prendre de la drogue, mais qui, de toute façon, même s'ils la prennent, ne vont pas forcément développer une prise compulsive de drogue. Donc voici un test tout simple qui permet de mesurer la réactivité motrice à la nouveauté, et c'est un test animal de recherche de sensations. Comment peut-on mesurer l'impulsivité chez l'animal? On le mesure dans des boîtes qu'on appelle des boîtes à 5 trous, on en a dans notre laboratoire, et le principe, il est de demander à un animal d'inhiber son comportement afin de s'assurer que dans l'environnement, un stimulus lui dise exactement quoi faire au bon moment. D'accord ? Donc dans ce test-là, on demande à l'animal de faire attention à 5 trous devant lui, et au fond d'un de ces trous, une petite lumière va s'allumer. L'animal doit aller mettre son museau dans le trou dans lequel la lumière s'est allumée pour aller chercher un petit morceau de sucre dans une mangeoire. D'accord ? Lorsqu'il met son museau dans le bon trou, au bon moment, il va chercher son morceau de sucre et il a gagné. Après, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut demander à l'animal d'attendre un petit peu plus longtemps que la lumière s'allume. Et là, il y en a certains, et en fait, le même test existe chez l'homme, qui vont se dire « Ah, j'essaie. Je vais quand même essayer de mettre mon museau dans un trou, on verra. » Et c'est exactement ce qui se passe. Certains animaux vont essayer de mettre leur museau dans un trou avant que la lumière ne s'allume. Donc dans ces cas-là, ils vont émettre un comportement qui est impulsif, dans la mesure où ils n'ont pas été capables d'inhiber leur comportement pour attendre exactement quoi faire. Eh bien, ce trait d'impulsivité chez le rat, cette impulsivité motrice, a été démontré comme ne prédisant pas une plus grande vulnérabilité à la prise de drogue. Dans la diapo précédente, je vous ai montré que la recherche de sensations prédit le fait qu'on aime plus les drogues ou qu'on les consomme de façon plus facile. Eh bien, ce trait-là ne prédit pas du tout ça, ni pour la cocaïne, ni pour l'héroïne. Par contre, il prédit véritablement la perte de contrôle et la prise compulsive de cocaïne, mais pas d'héroïne. Donc là, on arrive dans une autre dimension qui est importante, on en a parlé tout à l'heure, c'est qu'en fait, les cliniciens vous diront, et ils ont raison, il y a autant d'addictions qu'il y a de patients. L'addiction, c'est une histoire de patients. Et en fait, il y a aussi autant d'addictions qu'il y a de substances, qu'elles soient pharmacologiques ou pas. Et on se rend compte là que certains traits de comportement chez l'animal, et c'est vrai aussi chez l'homme, prédisent une vulnérabilité à la prise de cocaïne, par exemple, mais pas forcément une vulnérabilité à la prise d'héroïne. Et que les substrats de vulnérabilité à la prise de stimulants, comme la cocaïne, ne sont pas les mêmes que les substrats de vulnérabilité à la prise d'opiacés, tels que l'héroïne. Et c'est la même chose pour la transition vers la compulsivité. Alors on peut continuer à s'amuser, à faire des tests chez les animaux, et on se rend compte que les rats sont très très intelligents. On peut leur demander de faire de la prise de décision implicite. Donc chez l'homme, lorsqu'on a une altération du lobe frontal, on en a entendu parler par nos collègues cliniciens, cette altération du lobe frontal, de prise de décision, de véritablement contrôle sur son environnement, on le teste dans une tâche qu'on appelle, je suis désolé, il n'y a pas de traduction française, l'Iowa Gambling Task, qui est la tâche de jeu de l'Iowa, qui est une des régions des États-Unis. Et cette tâche-là, chacun d'entre vous peut la passer, elle est toute simple. Vous avez quatre tas de cartes devant vous, et on vous dit, gagnez le plus d'argent possible. On ne vous dit pas la règle, on ne vous dit rien. Et vous piochez une carte, et là, vous gagnez $200. Alors, vous allez sur le tas, vous piochez une carte, vous gagnez $5. Alors, vous allez revenir sur le premier tas. Vous piochez une carte, vous gagnez $50. Alors, vous allez continuer sur ce tas-là, mais au final, ce tas-là, à chaque fois que vous gagnez beaucoup, mais quand vous ne gagnez pas, vous perdez énormément. Alors que lorsque vous piochez sur le tas où vous gagnez peu à chaque fois, vous perdez très peu entre. Donc initialement, on est tous très sensibles au gain, donc on va aller piocher la carte où on gagne beaucoup, et au bout de 10 essais, on va tout de suite se dire « Oula, non, je préfère gagner un peu moins à chaque fois, mais qu'au final, je perds de moins. » Ce qui est intéressant, c'est que toute personne, on va dire normale, non pathologique, est capable de véritablement faire les bons choix à la fin, c'est-à-dire prendre les cartes qui donnent peu d'argent à chaque fois, mais qui font perdre peu d'argent aussi. D'accord ? Des personnes qui ont une lésion du cortex frontal ou des patients addicts ne sont pas capables de faire ça. Ils vont continuer à être vraiment intéressés par le gain. Eh bien, on peut demander exactement la même chose à un rat. Donc, dans ce cas-là, au lieu qu'il ait de l'argent, on lui propose que lorsqu'il va mettre son museau dans chacun de ces trous-là, il va avoir deux pelettes tout de suite. Des pelettes, ce sont les petits morceaux de sucre. Il va avoir deux pelettes tout de suite, mais par contre, s'il a ces deux pelettes, il a une chance sur deux ou une chance sur quatre de devoir attendre pendant 7 minutes que le test recommence. Alors que s'il va essayer ces deux trous-là, là, il a juste une pelette tout de suite, mais il n'a qu'à attendre que 6 secondes ou 12 secondes que ça recommence. Donc ce que vous pouvez voir, c'est qu'au début, donc là, on a représenté le pourcentage de choix avantageux, c'est-à-dire ne prendre qu'une seule pelette et avoir peu de punition, par rapport au choix total. Et donc, initialement, certains animaux, la majorité des animaux, préfèrent aller voir les deux pelettes parce qu'il y a un pourcentage de choix avantageux qui est mauvais. Et certains animaux vont très vite comprendre et aller tout de suite chercher seulement les une pelette, de sorte qu'ils gagnent beaucoup plus de nourriture pendant la session. Ils n'ont pas besoin d'attendre 7 minutes à chaque fois. Et certains animaux ne sont pas capables de faire ça. Spontanément. Certains animaux vont continuer à vouloir aller chercher ces deux pelettes. Et donc là, on a mis en évidence chez l'animal qu'en fait, des déficits de prise de décision, qu'on a pensé pendant très longtemps être consécutifs à l'exposition aux drogues, on sait que les drogues altèrent ces processus-là, on s'intéresse en ce moment dans mon équipe à vérifier si ces déficits de prise de décision facilitent aussi le développement d'une addiction. À savoir si, a priori, je suis peu sensible à ces phénomènes d'inhibition, même si je ne peux pas dire la règle, parce que les humains, quand on leur dit « comment vous avez fait pour gagner ?», ils disent « je ne sais pas, je ne sais pas la règle », mais ils ont gagné. Ils ont un phénomène implicite, non conscient, qui leur a permis de comprendre comment ça se passe et de prendre les bonnes décisions. Donc on s'intéresse à voir si cette capacité à intégrer les opérations de façon implicite, de façon non consciente, permet d'être protégé, ou si on le fait mal, d'être vulnérable à l'addiction. Donc les animaux sont capables, et les rats sont capables véritablement d'être testé dans des tâches cognitives extrêmement importantes. Et la dernière chose à laquelle on s'intéresse, je vous ai parlé de recherche de sensations, et aussi la recherche de nouveautés. Donc dans la vie de tous les jours, la recherche de sensations, c'est je prends mon surf, je monte dans un avion, et je saute de 10 000 mètres d'altitude, et je fais du skysurf. Et la recherche de nouveautés, c'est je change de job tous les 3 mois, je déménage tous les 2 ans, je ne garde pas forcément mes amis très longtemps, je ne suis pas forcément toujours à l'aise dans la routine. Eh bien, comment on mesure la recherche de nouveautés chez l'animal ? On peut aussi le mesurer. Dans ces cas-là, on propose aux animaux ce genre de cage dans lesquelles un petit couloir va séparer deux compartiments. Ces compartiments diffèrent selon une forme géométrique particulière, selon la texture des murs, diffèrent selon différentes modalités sensorielles. Et on va amener l'animal à rester une demi-heure dans un compartiment, de sorte que ce compartiment devienne connu, il l'explore, il le connaît, et puis au bout de 2 heures, on le met dans le compartiment central et on ouvre les 2 portes du couloir, de sorte que l'animal puisse aller visiter chacun des 2 compartiments qui sont à sa disposition. Et il s'avère, d'une façon générale, les animaux, les rats du moins, comme les hommes, aiment la nouveauté. Donc en fait, la majorité des animaux vont passer plus de temps, ici on a en représenté le pourcentage de temps passé dans l'environnement nouveau par rapport à l'environnement connu. Donc les animaux, d'une façon générale, vont passer toujours un peu plus de temps dans l'environnement nouveau que dans l'environnement connu. La nouveauté, en soi, c'est rigolo, c'est renforçant. Par contre, certains des animaux vont passer jusqu'à 90% de leur temps dans l'environnement nouveau. Eux, ils sont vraiment très, très, très attirés par cet environnement nouveau. Eh bien, ce trait de recherche de nouveauté, nous avons démontré dans une étude publiée juste l'année dernière qu'il prédit véritablement une plus grande vulnérabilité à la transition vers la prise compulsive de cocaïne. Il ne prédit pas une plus grande vulnérabilité, par contre, à la prise de drogue. Donc toujours pareil, on a là un trait comportemental qui ne dit pas si vous allez aimer ou pas les drogues, mais par contre dit qu'une fois que vous avez commencé à consommer des drogues, là vous avez beaucoup plus de risques de développer la pathologie. Brièvement, voici un autre test qu'on a dans le laboratoire qui permet de mesurer l'anxiété. Et simplement à titre informatif, la majorité des anxiolytiques que l'on prend sont systématiquement testés dans ce genre de test. Le principe, il est tout simple. Le rat, c'est un animal qui a des prédateurs et donc qui est beaucoup plus confortable dans des bras où il y a des murs autour et il ne peut pas y avoir de prédation. Et qui n'aime pas forcément se retrouver sur une petite poutre à 1 mètre du sol avec tout l'environnement autour de lui qui est véritablement anxiogène. Et bien, de façon spontanée, les animaux vont préférer rester dans les bras fermés plutôt que venir dans les bras ouverts. Et on peut mesurer toujours pareil le pourcentage de temps que l'animal va passer dans le bras ouvert par rapport au temps qu'il va passer dans le bras fermé. Eh bien, nous avons démontré dans un papier qui est en cours de publication que l'anxiété, mesurée dans ce test-là, prédit la vulnérabilité à développer une prise compulsive de cocaïne, mais pas une prise compulsive d'héroïne. Alors là, ça nous a fait nous poser beaucoup de questions, parce qu'en fait, si on revient à la discussion tout à l'heure et à la métaphore du dragon et du cheval, c'est que généralement, quand on est anxieux, on va avoir tendance à prendre des drogues qui vont calmer notre anxiété, donc de l'alcool ou des opiacés. Et on sait que la cocaïne est une drogue anxiogène. Les gens qui prennent beaucoup de cocaïne deviennent paranoïaques, sont extrêmement anxieux. Et donc, on ne va pas forcément prendre de la cocaïne pour calmer son anxiété. Donc l'idée, c'est qu'en fait, on ne l'a pas encore testé, il faudra qu'on teste, c'est qu'il est probable que l'anxiété facilite le choix de l'héroïne pendant les premières expositions, mais qu'une fois qu'on prend de l'héroïne, ça ne facilite pas le développement d'addiction, et que par contre, quand on a pris de la cocaïne de façon fortuite dans une soirée ou des choses comme ça, le fait d'être anxieux va faciliter la transition vers la compulsivité, va faciliter la pathologie. Donc en conclusion, ce que je voulais vous démontrer ce soir, c'est qu'en fait, chez l'animal, mais on a la même chose chez l'homme, on a différents traits de comportement ou différents traits de personnalité qui prédisent ou qui sont associés à différentes vulnérabilités. La vulnérabilité à la prise de drogue, qu'est-ce qui va faire que je préfère un whisky plutôt qu'une vodka, ou qu'est-ce qui va faire que je préfère boire plutôt que fumer. Et il y a la vulnérabilité à la transition vers la pathologie. Et ça pose quand même beaucoup plus de problèmes d'un point de vue de l'addictologie que la prise de drogue. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a aucune conséquence social ni sur la santé de prendre des drogues. C'est pas super bon de prendre du whisky tous les jours pendant 40 ans, ne serait-ce que pour votre foie. Ce qui est important aussi de considérer, mais nos collègues médecins nous l'ont largement illustré, c'est qu'en fait il n'y a pas une addiction, mais il y a des addictions. Ça dépend de la substance, ça dépend de l'histoire de vie du patient, et au final il y a autant d'addictions qu'il y aurait de patients. Et une chose sur laquelle je voulais vous sensibiliser, Nathalie l'a introduit tout à l'heure, en fait, jusqu'à 1998 et 2004, au niveau de la recherche préclinique, on considérait que si un animal prenait une drogue, on avait un bon modèle d'addiction. Or, la prise de drogue, ce n'est pas un problème, ce n'est pas de la pathologie. Et en fait, c'est très récent que des modèles animaux s'intéressent à la transition vers la compulsivité. Ça, en fait, ça ne date que depuis 2004. Et donc, on est au balbutiement de la compréhension des processus et psychologiques et neurobiologiques qui sous-tendent la vulnérabilité à la prise compulsive de drogue. Donc voilà, on en fait le pourquoi de la question initiale. Je ne peux pas vous répondre aujourd'hui. On ne sait pas pourquoi, en fait, on est plus vulnérable que d'autres. On sait qu'il y a des traits de personnalité qui favorisent. On est encore loin de comprendre les mécanismes neurobiologiques qui sous-tendent cette transition. On a des idées. Et pour l'instant, en fait, il y a quatre grandes théories neurobiologiques de l'addiction. Et parce que ce sont des théories, on est loin de savoir la vérité. Je vous remercie de votre attention.
Bon, je commence. Je suis Marcelo Solinas, donc chercheur CNRS, toujours dans la même unité des recherches, et peut-être dans la prochaine unité des neurosciences. Bon, c'est bien d'être là, c'est bien aussi d'être le dernier, comme ça je ne dois pas faire trop d'intro. Et donc effectivement, je veux simplement rebondir un peu sur ce qu'ont dit les collègues, surtout précliniques, et faire un exemple de comment on peut utiliser les modèles animaux pour étudier un cas précis des pathologies liées à l'addiction. Et effectivement, un des avantages des modèles animaux, c'est qu'il nous permet d'isoler certaines conditions, certains facteurs, et de voir comment ces facteurs-là, hein, ils vont interagir avec les cerveaux, ils vont créer une vulnérabilité accrue pour la dépendance. Donc, dans notre cas particulier, encore, on a toujours la même diapo, hein, que c'est très important pour comprendre effectivement qu'il y a une vulnérabilité différentielle à la dépendance et que pas tout le monde va développer normalement une dépendance aux drogues. Et David a aussi présenté une diapo qui représentait la même condition. Donc les facteurs qu'ils vont interagir pour déterminer la dépendance. Donc on va retrouver exactement ce qu'il a présenté David. Les facteurs génétiques, les facteurs liés à la drogue et les facteurs environnementaux. Effectivement, nous, on a dit, on a utilisé notre approche, donc on a forcé les conditions environnementales, on a choisi de se baser, de différencier les animaux sous la base de leur environnement et donc de leur conditions de vie, et de voir comment les conditions de vie, en soi, elles peuvent changer les phénomènes de la dépendance. Et donc l'idée, c'est très simple, c'est que l'environnement, il peut être à la fois un facteur des risques, et chez nous, les facteurs des risques sont généralement mimés par des conditions stressantes, et aussi, on sait qu'il peut être aussi un facteur de protection, des résistances, et comme facteur des résistances, on a choisi au labo d'essayer de voir si un milieu enrichi, un environnement enrichi, il peut être protecteur vis-à-vis de la dépendance. Et donc, qu'est-ce que c'est les milieux enrichis? D'un point de vue des laboratoires, c'est très simple. On a deux exemples qui sont pris des photos de notre labo. On a des conditions chez la souris, en bas, et on a des conditions des rats. Hein. Et donc, en fait, il s'agisse d'avoir des cages en général qui sont plus grandes que des cages standards. Et c'est pour standard environment, donc ce sont des environnements standards. Et on a des milieux enrichis où on a aussi des jouets, hein, une rue pour faire de l'activité physique, et on a des objets qui ont changé chaque semaine. Et donc cet environnement, en fait, il stimule l'interaction entre les animaux, il stimule l'activité physique, et en plus, il stimule un peu, si on peut dire, la cognition des animaux, parce qu'il les force à être devant des conditions nouvelles chaque semaine. Et ce milieu enrichi, ce n'est pas une nouveauté des labos. En fait, c'est connu depuis les années 50. Et il y avait un chercheur canadien qui avait amené un rat chez soi dans la maison. Il avait découvert un peu, il avait observé les comportements. Il avait trouvé qu'elle était beaucoup plus intelligente que les rats qu'il avait en laboratoire. Et après, un groupe aux États-Unis, il a fait beaucoup des expériences. Ce sont des expériences des années 50 qui l'ont mis en évidence que déjà, vivre dans un milieu enrichi, il amène à augmenter la taille du cerveau. Donc, au début, il pesait les cerveaux de ces animaux, et les cerveaux étaient plus lourds. Et après, ils ont fait toute une série d'études pour voir que la partie corticale elle était plus développée, les nombres des contacts entre les neurones, les synapses, elles étaient augmentées. Et donc, il y a la taille, mais aussi la complexité. Et aujourd'hui, on sait, une des caractéristiques plus importantes de myéline enrichie, c'est qu'elle augmente la neurogénèse dans l'hippocampe en particulier. Donc, la neurogénèse, c'est la formation des nouveaux neurones. Or, que juste il y a une dizaine d'années, on pensait que les cerveaux étaient un des peu organes, qu'ils n'étaient pas capables d'avoir de nouvelles cellules. Donc, les myéline enrichie, elle est capable de favoriser la formation des nouvelles cellules, et forcément, c'est très important, surtout lors des vieillissements. D'un point de vue comportemental, depuis effectivement les années 50, on savait déjà qu'il y avait beaucoup de bénéfices. Donc, il y avait des bénéfices sur l'apprentissage, sur la mémoire, la récupération par rapport à des conditions, des lésions du cerveau. Et dans les années 90-2000, on a mis en évidence qu'il y a aussi des effets sur les maladies neurodégénératives, donc la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer et aussi la maladie d'Huntington. Donc il y a quelque chose en plus que la simple taille et la complexité. Il y a aussi, elle augmente les pouvoirs de réagir à les insultes extérieures. Et finalement, une partie peut-être un peu plus récente sont les effets sur les maladies psychiatriques, donc maladies psychiatriques, voire dépression, voire des modèles des schizophrénies, et pour nous, les maladies liées à les conduites addictives chez les animaux. Donc, dans notre cas particulier, on a un exemple de comment on peut utiliser ces milieux enrichis dans le labo. Effectivement, c'est regarder ces milieux enrichis, il y a un pouvoir de prévenir la dépendance aux drogues. Donc, finalement, on a fait une manip très simple. On a mis des animaux au milieu enrichi, donc la ligne bleue au milieu standard, et on l'a mis depuis l'adolescence et à l'âge adulte, on a regardé les effets de la drogue. Et on a utilisé un test très simple qui s'appelle la préférence des places conditionnées. Ce sont des cages similaires à celui-là que David a montré avant, mais dans ces cas-là, on l'utilise pour vérifier la capacité des drogues de créer des associations avec des lieux particuliers. Donc, en fait, c'est une cage divisée en trois compartiments. Il y a un compartiment à gauche, qui on voit bien, il y a un sol avec des carrés. Et à droite, il y a un sol avec des petits ronds. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on ferme les portes et on force l'animal à prendre la drogue, par exemple, à gauche tout le temps. Et donc, il va associer les carrés et la géométrie de cet endroit avec la drogue. Et d'un autre côté, on lui donne toujours une solution contrôle. Et donc, qu'est-ce qu'il fait, l'ERA? C'est qu'elle va associer les côtés des gauches avec les effets de la cocaïne. La souris, là, elle ne sait pas qu'est-ce qu'il passe. Effectivement, elle pense que c'est cela, lui donne ces sensations d'euphorie. Donc, les jours qu'on veut tester les effets de la drogue, en fait, on ouvre la porte et on lui demande de choisir. Et les animaux qui ont pris la cocaïne, en général, ils vont toujours à gauche, donc dans les comportements où il y a la cocaïne. Et donc, dans les graphes que j'ai montrés là, on mesure un indice des préférences. Et donc, on mesure les temps passés à droite, à gauche. Et là, on peut voir à gauche là, les groupes qu'elle était dans le milieu standard, donc dans les conditions normales, qu'elle montre beaucoup de préférences pour les milieux associés à la cocaïne. Là, c'est de l'ordre, c'est 200 secondes sur une manie que ça dure 20 minutes. Et les groupes qu'elle était mis dans le milieu enrichi, en fait, ils ne montrent pas ses préférences. Donc, elle n'était pas capable d'associer les effets de la drogue au milieu. Au moins, ces milieux, elle n'était pas capable de déclencher cette envie de chercher la drogue. Là, on n'est pas... Donc, l'idée générale dans ces tests-là, c'est que la drogue, il n'y a pas ses capacités d'induire une motivation. Et donc, probablement, les effets positives de la drogue sont diminuées dans ces animaux. Je ne vais pas rentrer dans la neurobiologie. Et je montre un autre exemple des manips qu'on a fait toujours dans les mêmes contextes, qui c'est voir, donc on a vu qu'il y avait des effets préventifs, et on s'est demandé si des animaux qu'elles montrent déjà un comportement sur-dépendant, sur-addictif, si on peut intervenir sur ce sujet-là pour diminuer leur indice des dépendances. Et donc, dans ces cas-là, l'idée, c'est différent. On prend tous des animaux qui sont similaires, sont tous mis dans des conditions normales, standards. On donne la drogue et après, on les laisse en abstinence hein, et on les sépare dans ce milieu. Donc, on va essayer de soigner, si on veut, la dépendance aux drogues. Et donc, la technique, elle est toujours la même. Hein, et les graphes, par contre, ils montrent quelque chose d'un peu différent. Donc, en fait, il y a des barres noires qui montrent la durée de la mémoire pour la drogue au fur et à mesure du temps. Et donc, on peut voir que, et c'est en anglais, mais c'est après un jour, après 6 jours, après 30 jours, la mémoire de la drogue, elle reste très forte. Et la capacité de motiver l'animal à chercher la drogue, elle est très forte si on vit dans des conditions normales, voire appauvries dans les conditions de laboratoire. Et par contre, les animaux qu'ils vivent pendant leur phase d'abstinence d'un milieu enrichi, ils ne montrent pas cette motivation, ils ne montrent pas ces recherches. Et donc, on a une idée que le milieu enrichi il peut aussi soigner de la dépendance. Hein, donc, il fait quelque chose, il change les cerveaux et le rend moins sensible à ces sortes de cravings desquels on a parlé. Et je vais tout de suite aux conclusions parce que je ne rentre pas dans la neurobiologie. Mais l'environnement enrichi, on peut voir donc les conditions de vie, en fait, ils ont des effets à la fois préventifs et curatifs. Hein, et donc les conditions de vie, ils peuvent moduler, hein, interagir avec les cerveaux hein, pour le changer et pour déterminer les risques hein, de développer une dépendance, mais aussi de maintenir une dépendance plutôt qu'être soigné. Et donc, notre recherche, en partie, ils vont suggérer, pour un cadre un peu plus général, c'est que les conditions de vie et les environnements dans lesquels les personnes à risque ils vivent, mais aussi les dépendants lors de leur abstinence, sont un facteur majeur hein, pour déterminer s'ils vont rester, s'ils vont développer une dépendance, s'ils vont rester dépendants. Et à partir de ça, effectivement, la partie qui nous intéresse peut-être un peu plus d'un point de vue de notre recherche, c'est de comprendre qu'est-ce qu'il passe dans les cerveaux de ces animaux-là pour essayer de trouver des facteurs neurobiologiques, donc des substrats, des régions, des fois des cerveaux qui réagissent différemment, ou éventuellement des changements moléculaires, vraiment, qui après peuvent être ciblés avec des médicaments pour essayer d'utiliser pas seulement les conditions de vie en soi, mais aussi de trouver des médicaments qu'elle mime les effets de l'environnement enrichi, et donc il peut soigner de la dépendance, il peut prévenir la dépendance. Donc c'est tout par rapport à ma réflexion. Merci. S'il y a des questions.
Merci à tout le monde. Donc si vous voulez bien, on va commencer la séance des questions. Et j'ai envie de commencer moi-même par une question que je vais poser à nos collègues médecins, et notamment à Philippe Bender. Comment on peut distinguer un comportement répétitif de prise de drogue ou un comportement répétitif tel que le jeu d'un comportement compulsif, d'un comportement relatif à l'addiction? En clair, quand est-ce qu'il faut aller consulter? Quand est-ce qu'il faut taper à la porte et dire « ça ne va pas »
Nous, on ne choisit pas. Nous, on ne choisit pas. Les gens consultent quand l'équilibre entre les méfaits et les bienfaits se fait aux dépens des bienfaits. Et tout est une variation. Il y a des gens qui consultent précocement. Il y a des gens qui consultent à la place d'autres. C'est les parents qui viennent. Et il y a des gens qui consultent très tard. Mais je peux vous le mimer, tiens.
Le cannabis. À quel moment les gens viennent pour le cannabis? Pour l'instinct de cannabis. Première fonction, la moitié de la population.
Voilà un stick de cannabis. Il va avoir quatre fonctions. C'est les fonctions actuelles du cannabis dans la société française. Première, c'est la représentation que les gens ont du cannabis. Je n'ai pas touché, mais on est tous d'accord pour être ensemble autour du totem. C'est tellement bien. C'est chaud. Ça équivaut à un jean, à des Reebok, hein, à une sono, à une musique. C'est-à-dire, je peux être comme au jeu, dépendant d'une représentation qui est commune à tous. Hein. Je me fais une idée. Il n'y a pas d'effet moléculaire, mais il y a un effet puissant de la représentation. C'est ce qu'exploitent les gourous dans les sectes. Hein. Le gourou, c'est une représentation. Donc on est à 45-50% des jeunes. À ce moment-là, le jeune, il prend et il fume son stick. Et là, il y a une rencontre biologique. Et là, l'événement se passe de la manière suivante, c'est que le même stick va lui permettre de s'envoyer en l'air. Et au lieu de sauter comme il essayait de faire avec ses propres moyens, là, il fait un saut à la perche. C'est-à-dire le stick lui permet de sauter plus haut que s'il n'avait pas. Donc ça lui donne une impression de plaisir. Hein. On pourrait l'écrire, voilà. La première fonction, c'est de ressembler à quelqu'un ou de rassembler, hein, en groupe. C'est la fonction cocktail, si vous voulez. Hein. La deuxième, c'est s'envoyer en l'air. Planer, plaisir. Donc cela, c'est la fonction de la première expérience, c'est je goûte le produit. Hein, et c'était la chercheur de sensations. Voilà. Ça, c'est très intéressant, je n'ai pas le temps, mais on a fait, nous, une étude sur 3800 adolescents de seconde et de troisième, et on a découvert qu'il y avait une linéarité, comme ceci, tout à fait impressionnante au même âge, entre l'intensité des consommations entre zéro, tabac, etc., cannabis, alcool, etc., et la précocité sexuelle. L'interprétation que l'on a, c'est que, en fait, au même âge, hein, c'est-à-dire que les chercheurs de sensations, ben, ils cherchent la sensation sexuelle, ils cherchent la sensation avec les produits, etc. Je ferme la parenthèse. Donc, je m'envoie en l'air avec mon stick. Dans le premier cas, totem, les adolescents ne consultent jamais. Ce sont les parents qui s'inquiètent. Il est allé à une sortie et puis on a vu traîner un stick. Hein, voilà. Alors, les adolescents ne consultent jamais, ils n'en ont rien à foutre, hein, parce qu'on a été en sortie, en boîte, etc. Bon. Ça, c'est assez rare. Deuxième situation, là encore, c'est les parents, mais la petite amie qui dit « Ouais, mais depuis qu'il fume des joints, entre nous, c'est pas très chaud, quoi, quand même. Hein. » C'est comme les conjoints qui prennent de l'héroïne. Je vous conseille, enfin, un petit truc, hein, c'est qu'un couple avec de l'héroïne, ça ménage à trois. Hein. C'est une maîtresse ou un amant. Donc là, c'est plutôt le conjoint qui consulte. Mais ce n'est pas le patient, parce qu'il est, il fait plaisir. Il ne va pas consulter pour ça. Alors nous, on voit arriver qui ? On voit arriver ceux qui ont la troisième fonction. C'est-à-dire qu'ils ont découvert, lorsqu'ils sont dans une situation de vulnérabilité, et je vais me mettre en situation de vulnérabilité, c'est je suis au bord. Alors la souris, ça m'a beaucoup plu, parce que c'est exactement la même image que j'ai construite cliniquement. C'est je suis sur une poutre, à 20 cm de haut. Pas très dangereux, là, je peux faire le zouave, si vous voulez. Mais si je me mets en représentation réelle ou fabulée d'être à 50 mètres de haut, vous ne faites plus le malin. Pourtant, il n'y a rien qui a changé au niveau géométrique, si ce n'est la représentation que j'ai du stress que je vais avoir en tombant. Et là, ma perche qui me sert à m'envoyer en l'air, je vais m'en servir comme balancier pour m'équilibrer. C'est toujours le même produit. Donc le produit prend une fonction différente. Alors le problème qui se passe, c'est que au début, ces personnes-là consomment le cannabis pour aller en cours, pour dormir, pour draguer, pour aller en boîte, parce que sinon, comme disait quelqu'un, sans stick, je ne sais pas où mettre les mains. Voilà. Et là, je prends mon stick pour m'apaiser, pour diminuer mon stress, etc. Le problème, c'est que quand je le lâche, je ne suis pas bien, donc je le reprends. Et si les circonstances d'environnement sont de plus en plus hostiles, à savoir rétrécissement de la poutre, prise de hauteur de la poutre, réelle ou imaginaire, ou un petit coup de vent, hein, qui est, disons, les aléas de la vie, je panique, la réaction, c'est il me faut une poutre plus grande. Donc je prends deux fois plus de stick. Et au bout d'un moment, j'ai besoin de prendre un produit qui me fait tellement d'effet qu'il est grand, lourd, et il commence vraiment à m'emmerder. Parce que je suis équilibré, mais j'ai les mains occupées, et je ne peux plus avancer. Et là, on les voit consulter en disant, bah, écoutez, docteur, il faudrait bien que j'arrête parce que je ne peux pas. Comme disait un, je rentre dans la gendarmerie, mais ils ne vont pas m'accepter si j'arrête pas le cannabis. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Et évidemment, tout le monde leur dit, mais arrête ton truc. Ils lâchent le cannabis et là, ils ne peuvent pas tenir. Donc, on a à ce moment-là des consultants. Voilà. Donc, ceux-là, ils font la troisième fonction qui est de s'adapter ou de d'assurer, j'assure, je m'adapte. Et la dernière fonction, c'est j'utilise le cannabis, alors souvent en mélange, etc., pour me casser la tête parce que je suis tellement mal que je ne veux plus penser. Et là, je me cogne jusqu'à ne plus penser, ce qui n'a rien à voir. Hein. C'est ce qu'on appelle la défonce et le délire. Voilà. Et vous avez compris que cette glissade, eh ben, c'est un dérapage. D-R-A-P. Voilà. Je dérape. Voilà. Et c'est toujours le même produit. Donc, ceux-là, ils consultent plutôt en psychiatrie, hein, si vous voulez, c'est les délires. Ceux-là, ceux qui s'adaptent, ils consultent plutôt dans les consultations plutôt de médecine générale ou des consultations addictologie. Et puis les autres, c'est les tiers qui consultent parce qu'ils emmerdent le monde ou alors ils gênent la relation. Voilà ma réponse un petit peu imagée.
Merci Philippe. Merci beaucoup. Je garde la parole ou il y a une question dans la salle? Vous êtes timide. Vous auriez dû peut-être fumer avant de venir.
Bonsoir. Est-ce que dans ce que vous avez venez de dire, vous avez donné une très grande importance à l'automédication, d'un mal-être, est-ce que vous pensez que les drogues ont uniquement ce rôle?
Pour moi, c'est clair. Alors,
a des problèmes avec les micros avant.
Alors c'est vrai que je consulte, enfin ceux qui consultent le plus souvent à mon cabinet, ce sont les jeunes qui consomment du cannabis, hein, ou les moins jeunes, et puis après les héroïnomanes. Les cocaïnomanes ne consultent pas, donc c'est un petit peu à l'écart de ces présentations. Hein. Mais il est clair que la première expérience est une expérience soit ordinaire, soit une révélation. Et d'ailleurs, maintenant, dans un interrogatoire de quelqu'un qui a 22, 23 ans, qui consomme du cannabis, une de mes premières questions, c'est, je peux d'ailleurs la poser, je vous demande pas de répondre, à ceux qui ont pris du cannabis, vous allez vous rappeler, ou l'alcool même, vous allez vous rappeler, est-ce que vous vous souvenez de la première consommation de cannabis ou d'alcool? Si vous êtes capable de vous dire, oui, voilà, tout à fait, je vois, tout de suite, c'était quand même trop bien, eh bien, c'est un facteur de risque actuellement de la dépendance ultérieure à n'importe quel produit. Si je vois la personne en train de chercher, je commence à être rassuré. Vous voyez ? Si vous voulez, l'histoire du reptile tout à l'heure, c'est que quelqu'un qui a grandi avec une tension intérieure de plus en plus difficile à gérer pour être bien dans mon environnement qui est justement appauvri. Pour nous, cliniciens, l'environnement appauvri, l'environnement enrichi, est un environnement qui a du sens. Et quand je grandis et que je suis dans un environnement qui n'a pas de sens, je cherche sans cesse à m'apaiser en trouvant du sens. Et quand je ne le trouve pas et qu'une molécule me le donne par un effet simple, un apaisement, il se produit une rencontre apaisante, qui prend du sens. Et donc, la répétition, alors on n'est pas dans l'addiction, hein, on est dans une automédication au début, si vous voulez, hein, et c'est ce qui se passe, à mon avis, à l'adolescence. Et de tous ceux qui vont utiliser les drogues comme apaisement, certains, petit nombre, vont devenir addicts et d'autres ne vont pas le devenir. Alors, pour d'autres vulnérabilités, etc., c'est un peu long. Voilà un petit peu ce que serait ma réponse. Mais attention au souvenir de la première rencontre. Est-ce que c'est une espèce de dilatation, enfin je suis apaisé? Et ce que je vous dis, si vous saviez ce que disent les gens, c'est vraiment impressionnant. Hein, un exemple simple, quelqu'un que j'ai raconté mon Saint-Georges en prison, hein, un petit groupe qui voulait travailler sur la dépendance en prison. Il y en a un qui me regardait comme ça et qui me dit, quand j'étais en sixième, donc il avait 11-12 ans, hein, un enfant qui avait été très maltraité, et ils sont allés visiter les caves de cognac. Et il raconte que je suis rentré dans les caves, il y a eu quelques molécules d'éthanol qui sont rentrées, et il a dit, et il a pensé, ça c'est pour moi. Vous voyez, c'est ça. C'est un peu ça que je voulais vous transmettre. Donc c'est un élément de prévention, ça. Quand vous êtes des parents, si un de vos gamins qui prend du cannabis, eh bien faites-lui raconter sa première consommation de cannabis. Voilà. Et si je vous dis, je m'en souviens pas, c'est plutôt rassurant. Enfin, à très grossier. Hein, voilà.
Moi, j'ai envie de poser une question à Jérôme. Ça fait plus d'une heure maintenant qu'on parle de l'addiction. Mais qu'est-ce qui fait qu'un comportement quelconque ou qu'une molécule quelconque ait un potentiel addictif? Pourquoi, comme tu l'as dit tout à l'heure, l'alcool, le tabac sont des molécules et des produits extrêmement dangereux? Pourquoi cela et pas d'autres? Pourquoi pas le chocolat, le sucre? Pourquoi le jeu et le sexe sont addictifs et pas d'autres comportements? Est-ce que tout comportement ou toute molécule peut être addictive? Pas t'es très gentil, moi, avec la question.
Oui, c'est une question. Oui, tout peut être addictif et rien ne peut être addictif. Je pense qu'effectivement, c'est ce que va en faire l'individu de ce qu'il va rencontrer qui va le rendre ou pas éventuellement addictif et pas le produit en soi. On le voit très bien avec l'épidémiologie, il y a 10%, 15% des gens qui vont toucher à l'alcool, qui vont devenir à un moment donné addicts à l'alcool. Il y a 10%, 15% des gens qui vont fumer du tabac, qui vont devenir dépendants au tabac. Ce n'est pas le produit le problème, c'est qu'est-ce qui s'est passé au moment où on a pris le produit, quel était le contexte des premières prises. Et je suis tout à fait d'accord avec le docteur Bender. C'est le plus important, c'est la première rencontre qui s'est passé. Mais effectivement, on peut imaginer des gens qui vont consommer de la cocaïne. Freud est un exemple assez... Freud, qui était le père de la psychanalyse, consommait de la cocaïne de façon initialement occasionnelle, a réussi jusqu'à ce qu'il ait un cancer ORL, à contrôler ses prises de cocaïne. Et donc, la cocaïne en soi, c'est quelque chose de dangereux, mais on peut, dans certaines circonstances, si on est capable effectivement de contrôler son comportement, prendre la cocaïne une fois de temps en temps. Et c'est ce qui se passait avec les... Je pense que c'est ce qui s'est longtemps passé aux États-Unis quand on disait que la cocaïne était sans danger. Donc, si une réponse assez brève peut être celle-là. Après... La difficulté aussi, c'est de savoir effectivement qu'est-ce qui est addiction, qu'est-ce qui est dépendance. Pendant longtemps, effectivement, on utilisait le terme de dépendance aux antidépresseurs. On disait, on prend un antidépresseur, on va le prendre pendant 6 mois. Quand on va arrêter l'antidépresseur, soit on a des signes de sevrage, un antidépresseur, soit on va avoir apparition de symptômes de... par exemple, de réémergence des symptômes qui ont nécessité la prise de l'antidépresseur. Et si on considère que ça, c'est de la dépendance, parce qu'on ne peut pas se passer du produit, on est, à mon avis, très loin, effectivement, de l'addiction. L'addiction, ce n'est pas simplement ne pas ne prendre un produit et ne pas arriver à l'arrêter. Il y a effectivement dans l'addiction, dans la, il y a une grande notion de souffrance personnelle. En étant un peu provocateur, quelqu'un qui prend... c'est assez compliqué avec les adolescents parce que on peut difficilement dire qu'un gamin de 14-15 ans qui prend du cannabis, et c'est sans danger de le faire. C'est pour ça que c'est très difficile avec le cannabis de pouvoir avoir un discours assez, on va dire, laxiste. Mais avec, une fois qu'on est adulte, quand on a 24, 25, 26 ans, qu'on commence à prendre une substance, il y a très peu de chances déjà qu'on devienne addict, parce qu'il y a très peu de chances qu'on perde le contrôle de sa consommation. Et on peut envisager, sur un plan purement médical, de considérer que ce n'est pas forcément très grave s'il n'y a pas de conséquences professionnelles, sociales, familiales, judiciaires, à consommer n'importe quel produit, quel qu'il soit. Après, effectivement, c'est la grosse difficulté, c'est d'être capable d'arriver à déterminer qu'est-ce, s'il n'y a vraiment aucune conséquence. Donc je pense qu'il n'y a pas de notion de produit plus dangereux. S'il y a effectivement des produits plus dangereux que d'autres, on sait que le cannabis sera moins dépendant. Il y a moins de fréquences de dépendance sous cannabis que sous cocaïne ou que sous alcool. Mais c'est, là, ça devient une question de vulnérabilité génétique, de vulnérabilité comportementale, de vulnérabilité environnementale, de contexte de vie. Et c'est vrai qu'en clinique, le problème, il est, pas de, il est indirectement d'essayer de trouver comment on peut enrichir, mais ce n'est pas forcément l'environnement, c'est enrichir effectivement la psychologie de la personne. Voir que la personne, elle soit pas, qu'elle n'est pas que... comme seule solution à ces difficultés, le produit, quel que soit. Alors après, effectivement, on peut être addict au chocolat, oui, pourquoi pas. Si c'est le produit qui a fini par amener une réponse à une souffrance. Généralement, c'est très rare. Mais
très rare, et puis les conséquences ne sont pas les mêmes. On quitte rarement son boulot, son conjoint, on néglige moins sa famille parce qu'on mange du chocolat. Mais c'est oui. Vrai, ça doit... Ça doit exister après, quelque part. Mais
bon. Ça doit exister. Après, il y a, comme autre réponse, la réponse purement neurobiologique, qui pourrait être l'expérience de Schultz, c'est Schultz, avec la libération de dopamine au niveau du système de récompense, et qui, très, très schématiquement, c'était testé chez le singe. L'effet de petites doses de jus de pomme associées à un stimulus. Donc il y avait enregistrement de la libération phasique de dopamine dans certaines zones cérébrales et regardez qu'est-ce qui se passait au moment où il y avait administration d'un jus de pomme. Et ce que trouvait Schultz, c'était que si au moment où il y avait administration du jus de pomme, il y avait une augmentation de la libération de dopamine. S'il associait un stimulus juste avant l'administration du jus de pomme, au bout de quelques temps, il se rendait compte que la libération de dopamine arrivait au moment du stimulus et qu'au moment où il y avait le jus de pomme, la libération de dopamine était stable. Et s'il poussait un petit peu plus loin la démonstration, c'est qu'il faisait le stimulus et qu'après, au moment où il devait y avoir le jus de pomme, il ne se passait rien. Et ce qui était observé, c'était une petite décroissance de la libération de dopamine. Et on peut imaginer que ce qui se passe au niveau du cerveau en fonction des différentes substances, c'est que chaque substance, quelle qu'elle soit, le sexe, le jeu, l'amour, l'attachement, la cocaïne, l'héroïne, la cannabis, vont, à un moment donné, entraîner une augmentation de la dopamine, plus ou moins forte. Donc, on sait que la cocaïne et les amphètes sont les substances qui augmentent le plus la dopamine au niveau du cerveau. Et probablement, l'effondrement de sécrétion de dopamine au moment où il devait y avoir la récompense et où il n'y a pas eu la récompense, peut être proportionnellement inverse au pic qu'il y a eu précédemment lié à la stimulation. Donc, je ne sais pas si je suis assez clair, mais si on, on peut imaginer effectivement ce que je dis. Alors, il y a un exemple très simple, c'est avec la substitution. On a des patients qui viennent tous les jours à heure fixe chercher leur Subutex ou leur méthadone dans un centre de soins ou à la pharmacie ou qui le prennent tous les matins à heure fixe. Et un jour, pour une raison complètement indépendante de la volonté de la personne, quand il arrive au centre, on lui dit, ben non, là, il est 9 heures, on ne peut pas te donner le traitement parce que ben, l'infirmier qui doit te délivrer, il n'est pas là, il n'arrive que dans 3 heures. Et la personne qui arrivait, qui avait dans la tête l'idée, que, qui avait eu son petit stimulus de savoir que je vais au centre, je vais chercher mon traitement, sachant que la méthadone est un agoniste opiacé, donc c'est quelque chose qui mime exactement l'effet de l'héroïne et qui fait que probablement quand il était arrivé au centre, il avait eu son pic de dopamine à ce moment-là, en espérant que quand il allait prendre directement la molécule, il allait avoir l'effet attendu. Donc, et au moment où on lui dit ça, généralement, ce qui se passe, c'est que la personne se retrouve déclenche des symptômes de manque. Elle se retrouve très mal, brutalement, alors que 2 minutes plus tôt, il était tout à fait bien. Le simple fait de savoir qu'il ne pourra pas avoir la substance déclenche quelque chose. Et cet état de mal-être induit par le manque peut être effectivement, ça peut être effectivement cette oscillation entre l'anticipation de quelque chose de très agréable et le manque de ce qui était attendu, qui est différent en fonction des substances, qui pourrait expliquer effectivement pourquoi certaines substances sont plus addictogènes, addictives que d'autres.
On peut comprendre le syndrome de manque qu'il a ressenti si on reprend l'analogie que tu as fait avec l'éclair. On a très faim, on passe à côté du boulangerie, on sent l'odeur du pain. Là, c'est sûr qu'on va sentir un syndrome de manque qui est de plus en plus important.
Qui peut être d'autant plus fort qu'effectivement, l'anticipation était plus forte. Absolument. C'est des différences d'amplitude qui pourraient expliquer aussi un mal-être et qui fait effectivement que le chocolat comme le pain ou le jus de pomme peuvent déclencher effectivement des faibles variations d'amplitude de la dopamine. Alors que la cocaïne, qui est capable d'augmenter par 1000 ou 2000
extracellulaires.
Oui, mais phasique immédiate du produit peuvent entraîner effectivement des crashs encore plus forts que le reste. Donc, ça peut être une explication effectivement à la différence de potentiel addictif des substances et du jeu et autres.
Peut-être pour rester dans le même domaine, je voudrais poser une question puisque vous écoutez avec beaucoup de religiosité. Sinon, je vous passe la parole. David, tu as dit tout à l'heure dans ta présentation que l'addiction est une maladie chronique, tout comme d'autres maladies chroniques. Et quand on a une maladie chronique, quelle qu'elle soit, on la traîne toute sa vie. Et le pourcentage de rechute dans l'addiction est quasi équivalent au pourcentage de rechute aussi pour d'autres maladies. Alors, qu'est-ce qui fait que certaines molécules vont engendrer un pourcentage de rechute plus important ? Est-ce qu'on rechute pareil à la nicotine quand on a arrêté 20 ans qu'à la nicotine ou à l'héroïne ? Qu'à l'héroïne ou à la cocaïne ? Parce qu'il me semble que le pourcentage ne doit pas être équivalent.
Alors en fait, on peut prendre cette question selon deux types d'analyses. Quantitatif et qualitatif. Donc, est-ce qu'on va rechuter plus ou moins en fonction de la substance à laquelle on est dépendant ? Et quels sont les mécanismes par lesquels on va rechuter en fonction de la substance ? Et ce sont deux questions qui sont vraiment différentes. Par exemple, lorsqu'on demande à nombre d'entre vous de se rappeler de sa première prise de cigarette, et les études ont démontré qu'en fait, il n'y a aucune relation entre l'appréciation subjective des premières expositions à la nicotine et le développement de la dépendance. Et on sait aussi tous, enfin pas tous, mais théoriquement, qu'une bouffée de une bouffée de nicotine, ça n'a rien à voir avec une ligne de cocaïne. Pourtant, la nicotine est plus addictive que la cocaïne. Sur l'échelle des propriétés addictives, il y a l'héroïne, la nicotine, la cocaïne, l'alcool et les barbituriques, et après il y a le reste. Et qu'est-ce qui va faire qu'on est dépendant à la nicotine si, au final, subjectivement, ça n'apporte pas tant de choses que ça ? Il y a potentiellement, on a entendu parler tout à l'heure, beaucoup de représentations. Il y a le fait que depuis qu'on est né, notre génération, donc ceux qui ont 30 ans aujourd'hui, sont nés avec les ordinateurs. Et à Noël dernier, à Auchan, je me suis fait battre aux jeux vidéo par un gamin de 7 ans. Pourtant, je suis super fort aux jeux vidéo, mais il était super fort. Cette propension spontanée à pouvoir utiliser les éléments environnementaux avec lesquels on évolue et qui font partie de notre représentation cognitive du monde, on peut avoir la même chose avec la nicotine. Pourquoi une substance qui n'est pas si euphorisante que ça, qui n'a pas tant de propriétés que ça, peut-elle être si addictive? Ça vient peut-être du fait qu'on se l'est approprié avant d'y avoir touché. Et donc dans ces cas-là, les mécanismes par lesquels on va rechuter sont très souvent des mécanismes sociaux. Il y a des gens pour qui, en fait, les personnes pour qui sont destinées les campagnes anti-addiction sont les non-addicts. Un patient qui fume, qui a réussi à s'abstenir de fumer pendant 3 mois, il voit une très belle pancarte avec un paquet de cigarettes et marqué dessus « Fumez-tu ?», il va prendre sa clope. Et vous et moi, on va être super dégoûtés. Ah oui, fumez-tu ? Parce qu'en fait, le stimulus de la cigarette en soi va entraîner chez le patient une représentation qui est associée à un déni, à savoir « Non, moi, la cigarette, ça ne me tuera pas, de toute façon. » Et le stimulus en lui-même va l'amener à vouloir prendre la substance. Pour des substances qui ne sont pas légales, les mécanismes par lesquels on va rechuter peuvent être différents. Ça va être beaucoup plus des stimuli sociaux, des stimuli associés au stress, mais très souvent, pour les drogues telles que l'héroïne ou la cocaïne, avant la rechute, il n'y a pas préalablement de représentation du manque ou du besoin. Certains patients vont dire, c'est le cas pour certains patients pour l'alcool, ils disent voilà, ça faisait 5 ans que je n'avais rien pris, je suis passé devant un bar, je me suis retrouvé à commander un verre. Et je ne sais pas comment j'ai fait. Et là, on voit toute la dimension que peuvent avoir les drogues dures, parce que l'alcool est une drogue dure malgré tout, que peuvent avoir les drogues sur l'ensemble du mécanisme du cerveau. Ça n'est pas parce que je ne le veux pas, c'est simplement parce qu'il se passe des choses dont je n'ai pas conscience, notamment de nombreux processus d'apprentissage sont détournés par les drogues et vont faire que je vais me mettre à rechuter à un moment où je ne m'y attends pas. Et donc en fait, effectivement, pour répondre finalement à la question, il y a des drogues pour lesquelles la probabilité de rechute est supérieure à d'autres, tout comme il y a des drogues qui sont plus addictives que d'autres, mais ce sont des stats, donc on peut dire que la probabilité de rechute à l'héroïne est supérieure à celle de la cocaïne, mais ça dépend du contexte psycho-affectif du patient. Mais ce qui est très important, c'est les raisons pour lesquelles la personne va rechuter. Et vu que ces raisons changent en fonction de la nature de la substance, il est très difficile de développer un traitement générique, et il faut véritablement comprendre les mécanismes psychologiques qui sous-tendent la rechute afin de pouvoir développer des thérapeutiques spécifiques.
Donc, il est difficile de développer un traitement générique. Donc la molécule miracle pour demain qui va traiter toutes les addictions, elle n'est pas là, et tant mieux d'ailleurs, parce que sinon elle va traiter aussi d'autres comportements qui ne sont pas forcément liés à l'addiction, mais qui sont liés au plaisir. Ce qui nous amène pour le dernier, puisque je suis en train de passer, puisque la salle est assez silencieuse, c'est parce que je parle beaucoup peut-être, à Marcello. Est-ce qu'on peut dire, avec les travaux sur l'environnement enrichi, est-ce qu'on peut revenir alors sur la culpabilité des parents? Parce qu'il y a l'époque avec Bruno Bettelheim et la maman de Carlos, pas celui qui est en prison, l'autre qui chantait des chansons. Ils ont été culpabilisés énormément parce qu'on disait que des pathologies psychiatriques telles que l'autisme sont dues à des problèmes relationnels entre les parents, surtout la mère et l'enfant. Mais après, on s'est rendu compte que ce n'est pas forcément vrai. Est-ce qu'avec l'environnement enrichi, on n'est pas en train de démontrer que les années d'adolescence et d'enfance qu'on vit auprès de nos parents sont des années qui sont cruciales et qui peuvent nous vulnérabiliser ou nous protéger contre les agressions extérieures? Est-ce que finalement, ce n'est pas finalement toujours la faute de papa et maman?
C'est une question un peu compliquée, surtout que j'ai deux enfants.
Mais ce que je veux dire par là, c'est...
Et je m'épose
des fois. Est-ce qu'il y a un espoir, malgré tout, si on a eu une enfance qui n'est pas très agréable, avec les travaux sur l'environnement enrichi?
En fait, voilà. Oui. En fait, les problèmes, c'est déjà que l'extrapolation chez l'homme, elle est beaucoup plus compliquée. Donc, c'est difficile d'aller chercher effectivement les relations parents-enfants qu'elles sont absolument absentes dans notre modèle. Mais c'est sûr, et ça je ne crois pas que personne ne peut dire, que les relations familiales sont une des causes majeures des dépendances. En même temps, effectivement, notre travail, il montre déjà qu'on n'est pas perdu, hein, parce qu'on peut encore intervenir avec les milieux enrichis chez les animaux. Probablement, les milieux enrichis, une sorte de capacité de régénération. Donc, on peut toujours intervenir, même plus tard, même pour soigner. Et effectivement, comme tu sais bien, on a fait récemment une expérience qui nous a un peu surpris et qu'elle montre en fait que si on est exposé à un milieu enrichi pendant l'adolescence, et ce milieu enrichi il est enlevé à l'âge adulte, en fait, notre animal devient hypersensible à la cocaïne. Et donc, il y a une sorte des syndromes, des manques émotionnels qui, des fois, c'est encore plus grave que le fait d'être dans des conditions normales pendant toute notre adolescence. Donc, effectivement, déjà, moi, je suis content parce qu'elle montre la complexité, déjà, dans les modèles animaux, qu'on peut voir des choses qu'on n'attendait pas, parce que nous, on attendait des résultats très différents. Donc, effectivement, il y a une complexité qu'on peut modéliser. En même temps, l'environnement, c'est sûr qu'elle est fondamentale. Les mieux seraient avoir un milieu enrichi toute la vie. Et les moins, c'est essayer de donner un milieu enrichi lorsqu'on a besoin. Je crois que les médecins, effectivement, moi, je commence à avoir des contacts avec les médecins. Après nos travaux, il y a des gens qui m'écrivent, il y a des médecins qui m'écrivent pour dire effectivement qu'ils voient cette idée. Ils voient aussi des idées dans la neurobiologie, parce qu'on commence à comprendre la neurobiologie, qu'elle rappelle des choses qu'ils voient chez les dépendants. Donc je crois qu'effectivement, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Des fois, peut-être on était, même dans notre travaux, on était un peu trop ambitieux, mais on a dit que peut-être des fois, la manque d'efficacité de certains molécules, c'est parce qu'on veut faire tout à les molécules et pas prendre en charge aussi les milieux et les conditions de vie. Et donc, si on donne une molécule, mais on ne s'occupe pas des milieux de vie, c'est pas suffisant. Donc, effectivement, notre hypothèse, c'est que forcément, il y a les molécules, il y a la psychothérapie, mais à côté de ça, c'est pas que les personnes, ils sortent de leurs conditions, ils vont se retrouver dans un milieu très pauvre, ils n'ont rien à faire, ils n'ont pas des raisons intérieures pour se sauver. Donc, je crois que avec toute la modestie de notre des modèles animaux, il donne une idée que, bon, déjà que le cerveau est encore plastique, mais qu'il faut le pousser d'une direction plutôt qu'une autre. Donc, oui.
Une des facteurs de protection en clinique, c'est d'aider le sujet à passer à un apaisement ou à un plaisir donné par une situation monochrome à une situation polychrome. C'est-à-dire que le sujet qui grandit avec comme indice de satisfaction toujours les mêmes choses est en danger, lorsqu'il aura trouvé une solution, à ne répéter que la même situation. Et notre devoir d'accompagnant, d'éducateur, de thérapeute, c'est d'augmenter le champ des couleurs et des sensations. Mais pas seulement, il faut aussi leur donner du sens. Je serais ravi que nos équipes-là scientifiques puissent mettre au point une expérience, je vous propose, où on différencierait des rats exposés à un environnement enrichi qui n'a pas de sens versus un environnement enrichi qui aurait du sens pour le rat. Et chaque fois qu'on est chez l'enfant, l'adolescence, c'est à l'adolescence, c'est le problème de ces jeunes qui grandissent dans des milieux riches, enrichis, avec des sensations qui n'ont pas de sens et qui prennent des drogues, si vous voulez. Le premier cadavre que j'ai vu, c'était une situation comme cela. Hein. Et le père se penchant sur le cadavre de sa fille il y a 28 ans, docteur, vous avez vu, ma fille unique, elle avait tout pour être heureuse. Hein. Voilà, mais je pense qu'il y avait d'autres problèmes que cela. Donc je crois que notre dimension humaine est faite de sens. Et quelqu'un qui vit dans des situations difficiles, si ces situations difficiles ont du sens, il en tirera un apaisement.
Si je peux me permettre juste de rebondir, ce qui est aussi important de considérer, c'est que pour l'individu ou même pour l'animal, en fait, un environnement donné peut être bénéfique pour l'un et stressant pour l'autre. Je vais vous donner un exemple. Si vous me proposez un 35 heures par semaine avec un CDI, je vais vivre très très mal. J'ai besoin de 70 heures pour me sentir bien. Et pourtant, une grande partie de la population considère que 35 heures, c'est bien. Donc en fait, tout dépend également de la représentation que l'individu se fait de sa situation. On ne peut pas se baser que sur une représentation que le clinicien aurait ou que le scientifique a des propriétés qualitatives ou quantitatives de l'environnement. Si je dis, voilà, ça c'est un environnement enrichi pour tel rat, il se peut très bien que pour le rat d'à côté, ce que je considère être un enrichissement est une source de stress et que la façon que l'animal ou que le sujet, je ne suis pas en train de comparer des rats et des hommes, a d'appréhender le même environnement peut être véritablement différente. Donc on se retrouve dans une problématique où, lorsqu'on veut inférer une relation qui est unidimensionnelle de l'environnement à l'individu, on oublie également qu'il y a une projection de l'individu dans l'environnement et que l'appréhension émotionnelle de l'environnement, du même environnement, peut être absolument différente entre deux individus. Et certes, dans le même environnement, quelqu'un peut être très heureux et la personne d'à côté qu'on considère avoir tout pour être heureuse peut être très malheureuse. Et donc, c'est vraiment une dimension difficile à appréhender, je pense.
C'est bien parce que ça précède exactement ce que je voulais vous proposer, c'est d'aller vers l'addiction au travail. Puisqu'on l'a évoqué au début. Alors, pourquoi je me suis posé souvent cette question, c'est que dans le monde de la recherche que j'ai parcouru pendant une quarantaine d'années, j'ai vu un certain nombre d'addicts, en particulier aux États-Unis. J'ai vécu 2 ans en complet, et où là j'en ai vu certains. Alors, ne prends pas ça pour toi. Ma conclusion par rapport à tous les addicts que j'ai vus, c'est que ce n'étaient pas forcément les plus performants en termes de recherche, de résultats expérimentaux, etc. Et donc, je ne comprenais pas qu'ils continuaient à bosser aussi longtemps alors qu'il y a d'autres propriétés à développer. Alors ça, c'est un premier aspect. Et le deuxième, justement, c'est est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion éventuellement que l'environnement de la recherche n'est pas un environnement enrichi.
Un expert, un psychiatre expert pénal qui a donné une conférence lors de la journée d'école doctorale de Strasbourg, alors je ne me rappelle plus de son nom, mais a expliqué en fait que dans la recherche de sensations et la recherche de nouveautés, il y a ceux qui sautent des avions et puis il y a ceux qui passent leur vie à essayer de créer de la connaissance. Et qu'au final, en termes de recherche de nouveautés, c'est difficile de dire ceux qui sont plus chercheurs de nouveautés que les autres. Donc, et quand on considère l'ensemble de la communauté scientifique, il y a un grand nombre de tarés, et au final, il y a beaucoup de personnes pathologiques. Donc soit la recherche est une niche à l'expression des psychopathologies, soit effectivement ça nécessite des personnalités de recherche de nouveautés, de compulsivité, parce qu'un bon chercheur ne peut pas ne pas être compulsif au final, qui sont en fait les traits de personnalité sur lesquels se fondent les processus de sélection du chercheur.
Non, mais je suis complètement d'accord avec David sur ce type des visions du monde de la recherche. Effectivement, j'ai mes demandes, mais je demande aussi aux psychiatres, parce que les questions de la dépendance, des comportements addictifs, peut-être c'est lié aussi à la vision, pas seulement de ce qu'elle pense la personne, mais de ce qu'elle pense l'extérieur. De la substance. Donc, effectivement, la nicotine, il n'y a pas trop des stigmas, la caféine encore moins. Et l'addiction au travail, des fois, elle peut être vue de façon positive. Mais c'est vrai qu'on développe, des fois, et moi, peut-être ça va venir, moi, je développe une compulsion à la vérification des emails, des messages électroniques. Et des fois, et je me rappelle, il y a eu des situations où j'avais un comportement typiquement d'une personne dépendante. Que je disais, c'est pas la peine que je vérifie mes emails, mais que j'avais la montée. J'avais cette craving d'aller vérifier, de vérifier qu'est-ce qu'il pouvait passer. Et l'autre jour, donc maintenant j'ai un téléphone qui me permet de me connecter tout le temps. Et je suis parti. Je suis parti en train, et dans les trains, on peut consulter les emails tout le temps. Parce qu'il y a les réseaux, et donc et aussi Internet. Et je suis arrivé à l'hôtel, j'allais à Lausanne, en Suisse, donc ça fait 6 heures, 7 heures de route. Je suis arrivé à l'hôtel, j'ai vérifié mes emails, et j'étais déçu, parce que j'avais pas beaucoup de nouveaux messages. Après, j'ai dit, mais je l'ai consulté juste à 3 heures. Parce qu'en fait, il y avait un décalage entre les moments que je suis arrivé en Suisse et mon téléphone ne marchait pas. Et j'ai dit, c'est quand même... Ça, c'est... Mais donc, effectivement, est-ce qu'on est un peu amené à des comportements compulsifs? Et est-ce qu'il y a beaucoup de compulsions au sport aussi, qui des fois sont vécues comme des passions. Des fois, on n'a pas l'idée de qu'est-ce que c'est une passion qu'est-ce que c'est une. Donc, c'est vrai qu'il y a peut-être moins de difficultés, mais moi, donc, j'ai pris la parole plutôt pour poser la question au psychiatre, parce que je suis curieux de savoir.
Mais je crois que la frontière là-dedans, elle est très simple. Elle est liée à la souffrance individuelle. C'est les addicts au travail, c'est pas forcément des gens qui bossent beaucoup, c'est des gens qui finissent par souffrir de trop travailler. Et l'autre caractéristique de l'addiction, qui rejoint l'enrichissement de l'environnement, c'est que l'addiction appauvrit. C'est quand on se rend compte qu'effectivement le travail, quand soi-même on se rend compte que le travail vient à la place de tout le reste, que le travail sert d'unique satisfaction, on ne peut pas, il n'y a rien d'autre. Et c'est vrai que ça permet donc de rejoindre le fait que les addicts au travail, c'est aussi une pathologie sociétale. C'est vrai que c'est assez étonnant de voir qu'en Amérique du Nord, il y ait autant de personnes qui se déclarent work addicts. C'est des gens qui finissent par ne vivre que par le travail, pour le travail, qui n'ont rien d'autre autour. Et qui, alors c'est vrai que ça rejoint la question de qu'est-ce qu'on peut proposer comme enrichissement, comme soin, enrichissement. Ça a toujours été la grande question avec les. Alors on a développé, ça fait dans les années 70, on a développé les communautés thérapeutiques. Donc on disait, les héroïnomanes, il faut les sortir de leur cadre de vie morose, on va les envoyer dans des communautés thérapeutiques, dans des sortes de fermes où ils vont faire du cheval, où ils vont faire des randonnées, où ils vont faire de l'élevage, ils vont faire de la peinture, ils vont faire de la musique, ils vont faire. Et le problème, c'est que, alors, c'était des séjours d'un an, deux ans, le problème, c'est qu'au bout d'un moment, il fallait les faire sortir de la structure pour les remettre dans leur milieu de vie habituel, qui était, en fait, ils retournaient dans leurs deux pièces ou une pièce dans la banlieue parisienne avec les mêmes dealers, les mêmes copains, les mêmes. Et ils se retrouvaient immédiatement, effectivement, dans une condition de rechute, tout simplement par le fait que c'est pas parce qu'on leur a fait faire du cheval pendant deux ans que ça suffit, effectivement, par guérir l'addiction. Mais l'addiction, c'est pas le produit, c'est la vie. Et on peut imaginer, effectivement, que on peut devenir addict à n'importe quoi, à n'importe quel produit. Effectivement, il y a toujours cette notion. Alors, le problème de l'automédication est très compliqué parce que il y aura des études qui vont montrer que on prend pas de substances comme automédication. Il y a d'autres qui vont montrer effectivement que toute prise de substance est liée à une automédication. Mais il y a obligatoirement derrière toute addiction une souffrance psychique. Et s'il n'y a pas de souffrance psychique, on pourrait presque résumer ça, s'il n'y a pas de souffrance psychique, il n'y a pas d'addiction. Il y a une prise, il y a un comportement de travail, il y a un comportement de. Mais s'il n'y a pas de souffrance, si la personne est heureuse de ce qu'elle fait, si l'entourage ne souffre pas, pourquoi aller forcément chercher du pathologique là où il n'y en a pas ? Mais à l'inverse, on voit des gens. On voit aussi dans les consultations, c'est assez intéressant, et heureusement ça existe, des gamins qui viennent, ils ont fumé 2-3 joints, et ils viennent en soins en se disant, voilà, j'ai fait ça, est-ce que c'est pas grave, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que je suis pas en train de devenir toxicomane. Il y a heureusement chez l'être humain toute une dimension psychologique qui permet de savoir s'il y a une frontière, en fait, entre qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est pathologique, qui est la grande question de la psychiatrie. Est-ce que les pathologies psychiatriques sont vraiment des pathologies, ou est-ce que c'est pas tous les gens normaux qui sont malades et les autres qui sont finalement bien. C'est la notion, effectivement, il y a une grande notion, effectivement, de normes sociales qui est très, très, très importante. Je crois que c'est ça qui est le plus important. Après, effectivement, on trouvera toujours, on trouvera des addicts à tout. Et effectivement, en Amérique du Nord, ils commencent à trouver des addicts à tout et n'importe quoi. Après, il y a toute la symbolique sociale qu'il pourra y avoir derrière, la reconnaissance sociale qu'il pourra y avoir derrière. Il y a toute une réflexion là-dessus, plus en psychiatrie qu'en addictologie, mais sur la création, par exemple, de nouvelles pathologies. Est-ce que la timidité est une maladie ? Oui, mais ça s'appelle la phobie sociale. Est-ce que le deuil est une maladie ? Oui, ça s'appelle la dépression. Est-ce que le délire est une maladie ? Oui, c'est entre autres la schizophrénie. Mais il y a eu des études aussi qui ont montré que je ne sais plus quel pourcentage de la population normale avait des idées magiques, croyait aux extraterrestres, croyait à la possibilité de transmission de la pensée, sans que ce soit une maladie en soi. Donc, quelle est la frontière là-dedans ? Et je crois que la grosse difficulté, elle est à notre niveau de trouver qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est pathologique, qu'est-ce qui est inquiétant, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et c'est chaque individu qui va l'identifier.
Enfin, en termes cliniques, ce qu'on voit, c'est est-ce que je contrôle ou est-ce que je ne contrôle pas ? C'est ça les souffrances, c'est-à-dire qu'il m'arrive quelque chose que je ne peux pas contrôler. Je voudrais dire quand même à Mohamed que les produits ont aussi un effet sur le fonctionnement des cellules. Alors, c'est pas toi que je vais apprendre ça. Mais l'éthanol sur les membranes cellulaires, la cocaïne sur la recapture, l'héroïne sur le système GABA, à l'aveugle, je pense que ça modifie. Et au bout d'un certain temps, les modifications sont tellement ancrées qu'on a des éléments anatomiques de plus en plus solides. Donc il y a des dépendances aussi qui s'installent du fait d'une capacité particulière de certaines molécules par rapport à des comportements comme le jeu ou autre chose. Enfin,
s'il n'y a pas de remarques de l'audience...
Alors si. Pardon. Si. Comment dire, là, je voudrais poser une question donc à monsieur Philippe, alors je ne me souviens plus... Donc David. Disons que vous avez parlé tout à l'heure qu'il y avait a priori plutôt un certain rapport entre la compulsivité et le fait d'être chercheur. Alors là, je n'ai pas très bien compris. Est-ce que vous pourriez m'expliquer ce que vous vouliez dire tout à l'heure là ?
Donc en fait, la dimension compulsive, c'est... On a parlé tout à l'heure de dissociation entre la souffrance et l'absence de souffrance, le contrôle, la perte de contrôle. 90% d'entre vous a tous les jours à peu près 60% de son comportement qu'il ne contrôle pas. Heureusement, parce que dans ces cas-là, on passerait notre temps à se réguler et à se contrôler et on ne pourrait absolument pas avoir d'interaction cognitive. Donc le contrôle, ça dépend de la façon dont on l'envisage. La compulsivité, c'est la perte de contrôle au détriment de soi. Je vais vous faire une petite analyse autobiographique. J'ai 32 ans, j'ai commencé à travailler il y a 2 ans. J'ai passé 3 ans et demi loin de ma femme. Je bosse 17 heures par jour depuis 10 ans, j'ai pris 10 jours de vacances en 10 ans. J'ai un problème social. J'ai un gros problème social. Et lorsque je suis tout à fait content de ma situation professionnelle, je me dis que ça va très bien. Et lorsque je me dis, est-ce que j'aurais pu faire d'autres choses à côté ? Mais je ne sais pas que j'ai des regrets, mais je me rends compte qu'il y a une dimension compulsive dans mon activité. C'est dans ce sens-là.
Il va falloir qu'on s'arrête là-dessus, parce que la soirée, il fait tard, et la soirée avance. J'aurais aimé que la salle intervienne un peu plus tôt, mais on va devoir arrêter.
Non, mais vous voulez dire que... des fois, vous dites que peut-être vous voudriez... plus parler de votre femme, etc., avoir plus de moments avec elle, c'est ça ?
C'est pour qu'il puisse passer plus de temps avec son épouse qu'on va clore la soirée. Merci pour tout le monde. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci.